bienvenue dans le podcast Biomécanique. Je suis Jérôme Cazerolle, ostéopathe à Montréal, et dans ce podcast, je vous propose de partir à la rencontre de sportifs, d'athlètes et de spécialistes de leur domaine. Pour mieux comprendre la mécanique du corps et de l'esprit, pour vous aider à être plus performant au quotidien, et surtout en meilleure santé.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Avant de démarrer l'épisode, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Ça avait été un carton la première fois. J'avais reçu énormément de messages de remerciements. Ils m'avaient fait confiance. Ils ont eu raison. Et moi aussi. Et du coup, on a décidé de réitérer notre collaboration. Alors, vous l'avez compris, Unae est de retour sur le podcast. Et grâce aux nombreuses commandes de la dernière fois, ben, je vous ai encore négocié une super réduction. Et cette semaine, vous avez droit à 15% de réduction sur toute la boutique Unae avec le code biomécanique 15. Et c'est encore une fois de l'inédit. Alors, pour ceux qui étaient complètement passés à côté la dernière fois, Unae, c'est la marque de compléments alimentaires de Julien Vénesson qui fait l'unanimité dans le paysage français actuel dans le domaine de la santé et de la longévité. Ce sont des compléments d'ultra qualité avec des ingrédients de la plus haute pureté et qui sont issus de l'agriculture biologique. Ils ont une charte qualité incroyable et tout est vérifiable sur le site internet. Alors l'été arrive, il est temps de faire le plein de compléments et si vous voulez être au top de votre santé avec les meilleurs produits du marché, eh ben c'est l'occasion rêvée pour le faire. Je vous recommande à titre personnel les oméga 3 en bouteille qui sont considérés comme les plus quali actuellement sur le marché. Si vous voulez améliorer l'aspect de votre peau, la santé de vos articulations et de vos muscles, il y a aussi le collagène éthique qui est issu de poissons sauvages et d'ailleurs qui est en passe de devenir un best-seller chez eux. Je vous recommande aussi le magnésium Omnimag, hyper important pour le sommeil et la récupération nerveuse et musculaire. Vous avez aussi la vitamine D3 qui avait été un carton la dernière fois et qui est considéré comme beaucoup comme le complément à absolument avoir et qui a un rôle dans quasi toutes les sphères de votre corps. Et puis ils ont aussi plein de nouveautés, il y a le multivitamine spécial ménopause, il y a le sommeil serein qui est une version améliorée de la mélatonine pour ceux qui ont du mal à bien dormir. Il y a aussi, alors je les ai pas encore testés, mais ça a l'air d'être du lourd, c'est le biotique immunité et le biotique digestion pour booster votre système immunitaire et votre microbiote. Enfin bref, vous allez sur la boutique, vous regardez ce qu'ils proposent, vous vous régalez, c'est sur unae.fr, unae.fr. La dernière fois, vous avez été des centaines à passer commande, vous avez créé des ruptures de stock sur certains produits, alors cette fois, bah, traînez pas. Et en plus, je vous rappelle que vous avez 15% de réduction avec le code biomécanique 15. Ils ne font quasi jamais des réductions aussi importantes vu la qualité de leurs produits, alors c'est le moment d'en profiter. La promotion, c'est cette semaine uniquement, ça se termine ce dimanche, le 12 mai, alors profitez-en un max et faites-moi vos retours. Et maintenant, place à l'épisode. Ça y est, j'ai lancé. Bon, alors t'as été attendu, t'as été réclamé par le peuple, t'as été adulé, bon je sais pas, mais attendu ça c'est certain.
Ah, j'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup de... Ah, il est hyper complet le podcast là, sur les invités. Je pense que...
Eh oui, il est complet, mais il est jamais assez complet tant qu'on n'a pas eu Julien Vénesson pour parler des compléments alimentaires pour sportifs et essayer justement de débroussailler tout ça. Donc, alors bon, je suis très content de te recevoir. Ça faisait plus d'un an, je ne sais pas exactement, quand on avait enregistré le premier épisode. Il continue à être écouté, hein. à être regardé sur YouTube. Aussi, et puis régulièrement, il y a des commentaires, à quand l'épisode numéro 2, ou alors on m'envoie directement des messages, quand est-ce que Julien Vénesson y revient. Et bien voilà, aujourd'hui, c'est le cas, on va s'amuser. Bonjour Julien.
Salut Jérôme, bonjour à tous.
Alors comme on a dit, en fait, on va essayer de faire un petit tour débroussaillage total sur les compléments alimentaires pour sportifs, et essayer de savoir qu'est-ce qu'on essaie de nous faire vendre et qui n'est pas utile, quelles sont les conneries, quelles sont les vraies utilités. Donc entre les protéines, les BCA, les boosters, tout ça, on va faire un tour. Moi, alors je ne vais pas te proposer de te présenter parce que je pense que beaucoup te connaissent. Tu l'avais fait, je pense que je t'avais demandé de te présenter la dernière fois. Tu as écrit des bouquins, La nutrition de la force. Il y a une nouvelle édition qui ressort et j'en ai l'exclusivité, je suis super content et on pourra en reparler, je le montrerai tout à l'heure à l'écran.
Tout à fait.
Alors, sur les protéines, on va directement démarrer dans le vif du sujet. Sur les protéines, t'avais écrit un super article qui m'avait donné un peu l'eau à la bouche pour me dire, tiens, j'aimerais bien pousser un peu le sujet sur les protéines avec Julien. Sur le fait que, est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que, quelles sont les différences entre les protéines en poudre d'origine animale, végétale? Est-ce que tout se vaut? Il y a une grosse mode du végétal, surtout dans les protéines. D'entrée de jeu comme ça.
C'était ouais. Quoi l'article? C'était quelle protéine utiliser pour conserver sa santé, non?
Non, c'était, il me semble pas que c'était celui-là, c'était vraiment le tout dernier. Un des tout derniers que tu as écrit.
Ah, ça fait longtemps que j'ai pas écrit sur le sujet, mais il me semble que c'était ça le dernier. Mais
Ok, attends, mais, alors j'ai peut-être pas le titre, mais.
Ah, je vous avoue que. Oh, j'ai fait un peu
le. Moi déjà, attends. Une question, une des premières questions que j'avais, c'est qu'il y a un truc qui est venu là sur ces dernières années, c'est la native, non native, au-delà de l'isola. Qu'est-ce que c'est une protéine native? Est-ce que c'est vraiment plus utile qu'une protéine non native?
Alors, c'est vrai que ce terme-là, natif, ça n'existait pas avant. Avant, quand on parlait protéines, c'était, t'avais le concentrat ou l'isola. Et en fait, le concentrat, ouais. C'était, enfin, l'isola, c'était mieux filtré, on va dire, que le concentrat. Et en fait, on peut dire que la protéine native aujourd'hui, c'est un peu l'équivalent de l'isola d'hier, en gros. Après, chaque fabricant de protéines a ses propres méthodes de fabrication, mais bon. En gros, l'idée de la protéine native, c'est de dire que c'est une protéine qui est extraite de lait frais et qui n'est pas un sous-produit de l'industrie fromagère notamment. Donc, c'est okay. Censé être une protéine qui n'a pas été dénaturée par la chaleur ou par d'autres choses, qui est censée être plus qualitative. Voilà. Alors, c'est assez marrant parce qu'effectivement, ce que les gens savent pas forcément, c'est que chez les marques de compléments alimentaires pour sportifs, le truc le plus vendu, c'est les protéines, en fait. Donc, c'est hyper concurrentiel. Ils veulent tous faire la protéine meilleure, qui est mieux, que plus, que bien, etc. Donc, faut trouver un moyen de se démarquer, si tu veux. Donc, à un moment donné, c'était l'isola, ensuite, c'était l'hydrolysa, ensuite, c'était c'est la protéine native, etc. Alors, je dis pas que ça sert à rien, hein, mais c'est sûr que c'est aussi beaucoup de marketing. Je vois pas le... Parce que chez moi, la connexion est mauvaise, donc c'est flou. C'est quoi le titre de l'article?
Alors effectivement, t'avais raison, tu vois, j'avais pas retenu le titre, c'est « Quelle protéine en poudre utiliser pour préserver sa santé ?»
Ah d'accord, faut que je vous en parle, faut quand même que je vous raconte.
Bah vas-y, raconte-moi.
On est en podcast, en fait il y a deux articles sur mon site qui parlent des protéines, il y a celui-là et l'autre c'est sur les protéines végétales, c'est « Quelle protéine en poudre végétale prendre pour préserver sa santé ?» un truc comme ça. Et en fait, quand j'ai écrit ces articles, il était encore possible de laisser des commentaires sur le site. Et aujourd'hui, les commentaires sont désactivés. Et en fait, il y a une raison très simple.
C'est toi qui les as désactivés. Hein? C'est toi qui les as désactivés.
Ouais. Bien sûr.
D'accord.
Il y a une raison très simple pour laquelle j'ai désactivé. Donc, je le dis aussi aux gens qui sont là et qui se posent la question, parce que c'est pas que j'ai pas forcément envie de répondre aux gens. Mais en fait, sous cet article-là, j'ai un lecteur qui a commenté et qui a critiqué la marque Force Ultra Nature, qui à l'époque était une marque peut-être un peu plus connue de compléments alimentaires pour sportifs. Et il a dit quelque chose de négatif en fait à propos des produits en disant que c'était pas de la bonne qualité en gros si tu veux. Et donc moi tu vois je suis plutôt pour la liberté d'expression, t'as le droit de dire ce que tu veux en fait. En tout cas dans des commentaires ça me semble un peu normal. Sous réserve que ce soit pas des insultes ou des je sais pas des choses violentes ou j'en sais rien. Et donc du coup j'avais laissé ce commentaire là et j'ai reçu un courrier par lettre recommandée du PDG de Force Ultra Nature qui m'a dit vous faites de la diffamation sur votre site internet, vous critiquez nos produits, nananinana. Donnez-moi l'adresse IP du mec qui a commenté sous l'article, sinon en gros je sais plus quoi, enfin bon voilà. Donc je lui ai dit d'aller se faire cuire un œuf. J'ai regardé la législation, donc j'ai
un
supprimé
bio, j'espère.
Non mais j'ai supprimé le commentaire parce qu'effectivement si c'était pas vrai, enfin même si c'était vrai, ça pouvait être considéré comme étant de la diffamation. Donc j'ai supprimé le commentaire, mais je lui ai dit si vous voulez récupérer l'adresse IP ou je sais pas quoi, c'est pas moi qui vais vous la donner. Vous avez qu'à passer par un juge. Moi je suis pas de la police quoi. Ouais, à un moment donné, et le gars jusqu'à présent il avait rien fait d'illégal. Il avait juste donné son avis sur des produits. Et ce monsieur de Force Ultra Nature, Jérôme, je sais plus comment il s'appelait, le PDG à l'époque, bah, il m'a poursuivi en justice, hein, pour diffamation. Et donc, on s'est retrouvé devant le juge. J'ai essayé de l'appeler avant pour essayer de lui dire que je comprenais pas, que tout ça, ça servait vraiment à rien. Et bon, il en a rien eu à faire. Il a expliqué devant le juge qu'il avait décidé de maintenir sa plainte malgré ma suppression de message parce que j'étais pas très sympathique. J'avais pas été très sympathique avec lui. Donc bref, c'est pour vous dire derrière pourquoi je vous raconte cette anecdote. C'est d'abord pour vous dire pourquoi il n'y a plus de commentaires sur le site. Comme ça, ça m'évite de devoir savoir quoi et pourquoi, etc. Et l'autre truc, c'est que ben effectivement, c'est très concurrentiel les compléments alimentaires. Et puis t'as plein de marques. Ben, tu vois, ils sont prêts à dégainer les avocats dès que quelqu'un critique ou donne un avis négatif sur quelque chose. Donc voilà.
Ouais, ben, il a pu penser ou en tout cas s'imaginer que c'était toi ou quelqu'un que tu connaissais qui avait fait exprès d'écrire ce commentaire-là pour le diffamer, en faisant penser que c'était un internaute et que c'était pas toi à l'origine.
Bah peut-être, mais ça n'empêche que si tu veux, il aurait pu, dans ce cas, quand je l'ai appelé, on aurait pu discuter cordialement, etc. Là, il avait juste envie de se défouler, je pense, ouais, un peu sur moi. C'était pas franchement. En plus, si tu veux, le mec, il m'a accusé d'avoir fait chuter ses ventes, mais que le commentaire en question avait fait chuter ses ventes. C'était un commentaire qui était à la suite de genre 150 commentaires en bas de page. Enfin, faut être honnête, qui c'est qui lit tous les commentaires quand t'en as 150 sur une page internet? Déjà que l'article est long, que t'as pas beaucoup de monde qui le lit en entier. C'était un peu n'importe quoi. Bref,
tu sais combien t'as de visites sur ton site web? Pour se faire une idée.
Je regarde pas particulièrement, mais c'est pas trop mal quand même.
Ok.
Pourquoi?
Ouais, mais y a des gens. Non, mais pour savoir justement l'impact que pourrait avoir, qu'aurait pu avoir cette. Ce commentaire.
Ouais, bah à l'époque, je me rappelle pas exactement combien j'avais de vues, à vrai dire. Je me rappelle pas. Mais bon, écoute, je ne sais pas. L'affaire est close. Protéines natives, donc. Ouais. Les protéines natives, oui, en théorie, c'est mieux parce que c'est moins dénaturé. Après, si tu veux, on n'a pas des études qui ont montré que tu prenais beaucoup plus de masse musculaire avec une protéine native qu'une protéine. Un concentrat ou qu'un isolat ou que je sais pas quoi. En fait, ce qui est important pour les protéines et qui, à mon avis, il y a deux choses vraiment importantes quand on veut acheter une protéine en poudre à base de lait. La première, c'est qu'il faut que ce soit digeste parce que si t'es malade quand tu la prends, bah, c'est quand même un problème. Donc, c'est vrai qu'une protéine, comme on dit, de type isolat ou native vraiment pure où il n'y a pas beaucoup de lactose, bah, c'est plutôt favorable à une bonne digestion. Donc ça, c'est quelque chose d'important.
Et alors ça, tu vois, j'en renvoie à l'épisode qu'on avait fait en tout premier lieu, parce qu'on avait parlé justement de lactose, de digérer le lait, qu'on perdait l'enzyme qui permet tout ça. Donc tu l'avais bien expliqué sur le premier épisode, sur ça.
Ouais, je pense que c'est ça. Après, je dirais que le deuxième choix, bah, pour moi, c'est peut-être plus de privilégier quelque chose de bio pour avoir moins d'exposition aux résidus de pesticides. D'ailleurs, j'ai mis à jour un gros article sur mon site sur les différences entre l'alimentation bio et conventionnelle. Tu as toujours des gens pour dire « Ah oui, mais non, il n'y a pas trop de différence » ou alors « Oui, ben les produits bio sont pollués aussi, etc. Ben » là, j'ai des chiffres dans tous les pays, des analyses sur les aliments et tout ça. Donc, c'est un super article.
Et qui le bio reste mieux.
Largement mieux. Quoi,
en absolu.
Fait. Ouais. Ben, non, mais c'est là, très largement mieux. Et en plus, d'accord, si tu veux, ce qu'on découvre dans cet article, c'est que il y a beaucoup de résidus de pesticides qu'on retrouve dans les produits conventionnels, qui sont des pesticides qu'on n'a jamais vraiment évalués, dont on connaît pas bien les effets sur la santé, tout ça. Parce que maintenant, c'est plus surveillé quand même pour mettre des produits sur le marché, mais par contre, tous les anciens produits qui ont été mis sur le marché et qu'on retrouve toujours dans la nature parce que c'est des produits persistants, bah, ils sont toujours là, en fait, donc tu les avales toujours. Donc c'est vrai que le bio, c'est pas parfait, et t'as toujours des résidus de pesticides, mais c'est quand même beaucoup mieux et aussi bien sur le plan théorique, c'est-à-dire quand t'analyses des aliments, que sur le plan pratique, on a quand même des études maintenant qui montrent que, ben, quand tu manges plus de bio, tu as moins de cancer, par exemple, global, que ceux qui en mangent moins.
Ça, c'est. Ça, justement, tu vois, ça, c'est la question que je me posais, parce qu'en termes de qualité de nutriments, j'imagine qu'on peut voir ça facilement, mais en termes de longévité, tu vois, entre une population qui mange bio et une autre qui ne mange pas bio, de longévité, d'anti-cancer, d'anti-maladie, c'est beaucoup plus difficile à mesurer.
Bah, de longévité, je ne crois pas qu'on ait d'études spécifiques sur la longévité, mais par exemple, on a l'étude NutriNet Santé, qui est une étude française qui est toujours en cours, qui a montré que les gens qui mangeaient plus de bio Bah, ils avaient nettement moins de cancers. Bon, faut regarder dans mon étude, je ne me rappelle plus du pourcentage du cancer spécifique. Mais en tout cas, clairement, voilà, il y a pas mal d'études qui ont montré qu'il y avait quand même moins de risques de cancer quand on mange plus bio, indépendamment des facteurs confondants classiques comme le tabagisme, le poids, etc. Donc, je sais en ce moment que les gens, ils achètent moins bio parce qu'ils ont moins d'argent avec la crise, l'inflation et tout ça. Mais personnellement, je pense que c'est vraiment un des derniers trucs sur lesquels il faut rogner, c'est la qualité de l'alimentation, en fait. Je pense qu'il vaut mieux moins se chauffer que moins bien manger.
Ouais, bah alors pour sa santé, après là, c'est vrai que toujours la problématique, c'est le confort, c'est que il y a beaucoup moins de confort immédiat dans le fait de manger bio que dans le fait de se chauffer. Donc c'est la raison pour laquelle le choix se tourne vers l'un plutôt que l'autre.
Bah moi je suis pas forcément d'accord parce que ouais. Je trouve que dans les produits bio la qualité gustative en fait des aliments et le choix aussi global est vachement plus intéressant. Je veux dire par exemple si tu vas dans un supermarché classique, je sais pas, t'achètes des pâtes, c'est des pâtes de blé par exemple. Mais si tu veux ou tu peux trouver maintenant un petit peu de trucs alternatifs, mais il y en a pas beaucoup. Alors que si tu vas dans un magasin bio, sur le plan gustatif, tu peux trouver des pâtes de sarrasin, des pâtes de lentilles, des pâtes de petit épeautre, des pâtes au curcuma, des pâtes à la spiruline. Enfin, il y a plein de trucs si tu veux. Et donc, il y a aussi une richesse dans le bio qui est vraiment intéressante. Moi, personnellement, je trouve que les légumes bio, au niveau saveur, sont vraiment meilleurs que les légumes non bio. Et donc, c'est vraiment... Je prends beaucoup de plaisir. Donc, après, c'est sûr que oui, chacun est différent. Mais pour le coup, j'ai un ami qui travaille dans l'industrie... des emballages notamment, et qui m'expliquait que là, en France notamment, depuis la guerre en Ukraine en fait, bah, tout ce qui est produit sain, les ventes elles chutent. Par contre, tout ce qui est produit genre cacahuètes, chips, etc., les ventes elles augmentent. Bah, exactement pour ce que tu dis en fait. C'est que les gens, ils recherchent un plaisir immédiat, quelque chose, ouais. Tu vois. Ils regardent des petites séries, des petits films devant Netflix pour se changer des idées en grignotant.
Mais exactement, mais je pense que c'est le contexte stressant, angoissant d'une pseudo-guerre mélangée à un pseudo-virus, mélangée à une pseudo... enfin, je dis pseudo parce que tout est à nuancer, tu vois. Inflation, tout ça, fait que peut-être qu'on se rue davantage vers des aliments dopamine.
Ouais, tout à fait, ouais. Après, bon, bah, c'est une posture aussi, parce que tu peux apprendre à trouver du plaisir dans autre chose, parce que si, effectivement, le seul moyen d'être heureux c'est de manger des cacahuètes et des chips, ça en dit. C'est quand même assez inquiétant sur la capacité de résilience en cas de difficulté dans la vie, quoi. En gros, demain, c'est la guerre en Allemagne, tu deviens obèse.
Dans ce sens-là, oui, c'est sûr que c'est pas le meilleur choix. Tu l'as vu ou tu l'as entendu le podcast, je sais pas si tu écoutes Thinkerview, un des derniers qui est sorti là, au moment où on enregistre, celui dans... qui part de l'agriculture, des sols, la pauvreté des sols et je pense qu'il... Non ?
Désolé Jérôme, mais tu sais, je vis dans une grotte. Et donc, j'écoute...
Je vais te sortir de ta grotte.
Ah non, mais j'écoute très peu de podcasts. Déjà, j'ai pas le temps. Vraiment pas le temps. Déjà, t'as bien vu, pour qu'on se trouve un rendez-vous pour se caler, c'est c'est drôle. Et donc, J'ai pas écouté, non. Je regarde presque pas de vidéos YouTube et tout ça. Je suis un peu un ours. Hein.
Ok, bon, c'est pas grave. Allez, on te pardonne. Donc, en fait, si on comprend bien, c'est que finalement, entre la native, une native et une non-native. Alors, la native, c'est celle qui proviendrait du lait, donc qui serait qui est d'origine du lait. Alors que la non-native, ça serait les résidus de l'industrie fromagère, tout ça, auquel on extrait la protéine pour en faire des poudres.
Exactement, avec les restes en fait. Mais enfin bon, historiquement, c'est comme ça que fonctionne l'industrie agroalimentaire. L'alimentation même de façon générale, c'est pas forcément une mauvaise chose si tu veux. Tu vois, je sais pas, au paléolithique, tu tuais un animal pour le manger. Tu prenais pas la peau et les os et pour les mettre dans un ravin. Non, tu récupérais la peau pour faire des vêtements. Tu récupérais les ossements pour faire des outils. Donc c'est humain et c'est plutôt une bonne chose de récupérer les déchets en fait pour en faire quelque chose. Hein, tu vois. Je sais pas moi, les déchets des poissons, des usines de poissons, on les utilise pour faire du collagène, voilà, il y a toujours quelque chose. Qu'est-ce que c'est que cette vidéo ?
Bien sûr. Bah justement, je mets en écran là, pour ceux qui vont regarder sur YouTube, c'est le podcast dont je parle, Les sols à l'agonie, peut-on encore les sauver ? C'est le podcast de Thinkerview qui a été diffusé là, il y a 8 jours, en direct.
Ok,
Voilà.
Hyper intéressant parce que c'est, ce sont deux ingénieurs, je crois, deux ex-ingénieurs qui sont fondateurs d'un laboratoire d'analyse et des sols et qui parlent un petit peu de tout ça. Et,
ah bah j'essaierai d'aller voir alors. Ok.
Ouais, bah je pense que ça peut t'intéresser pour le coup. Alors comment t'expliques une différence des prix aussi, tu vois, entre les différentes marques ? Toi aujourd'hui, t'as pas fait de protéines dans ta complémentation. Tu vas peut-être me dire pourquoi après. Mais comment on se retrouve avec un 15 euros le kilo sur une marque, un 25 euros le kilo, un 35 euros le kilo. Bon, j'ai pas les prix exacts, hein, avec de telles différences sur finalement des protéines qui sembleraient venir à peu près toutes du même endroit, avec les mêmes fournisseurs.
Bah en fait, il y a quand même y a pas mal de raisons qui peuvent expliquer les différences de prix. D'abord, c'est pas vrai que c'est toujours le même fournisseur. T'as quand même pas mal de fournisseurs différents de protéines de lait. Je veux dire, en France, par exemple, t'as Lactalis qui fournit des protéines de lait. Je sais qu'il y a des marques de sportifs qui se fournissent Lactalis. Faut quand même pas oublier que Lactalis, c'est quand même une entreprise qui est dans des affaires judiciaires graves pour des problèmes de je sais plus, de bactéries ou je sais plus quoi. C'est pas les champions. Pour moi, ça représente pas l'entreprise vertueuse, écologique et voilà. Donc là où t'achètes ta protéine, ben en fait le prix que tu l'as, que va l'acheter la marque qui va le revendre ensuite au consommateur, ça va dépendre. En fait, il y a quand même un lien, si tu veux, entre le prix et la façon dont travaille l'entreprise. Déjà à l'origine, tu vois. Parce qu'on peut toujours acheter pas cher, en fait. C'est comme si tu veux acheter des vêtements. Tu peux acheter le moins cher du moins cher, qui est fabriqué en Chine, etc. Mais évidemment, t'as quand même pas les mêmes garanties sur la qualité. Et quand bien même la qualité serait correcte, si tu veux, bah, derrière, t'as quand même des gens en Chine qui ont été mal payés, qui ont travaillé dans une usine dans des conditions, en général, catastrophiques, etc. Et donc... plus tu vas acheter un produit qui est fabriqué près de chez nous, en général, plus il coûte cher. Et de toute façon, quiconque a une entreprise aujourd'hui le comprend. En France, les charges sont super élevées. Et donc, voilà, tout ça, si tu veux, ça vient s'ajouter au tarif. Après, il y a la hausse des coûts de l'énergie en ce moment qui fait que tous les tarifs augmentent parce que ça coûte plus cher de fabriquer, etc. Et en fait, en réalité, c'est assez difficile. Puis après, tu as la marge de la marque elle-même. Avant de vendre au consommateur, elle va rajouter sa propre marge. Et c'est assez difficile, sans être dans les petits papiers de l'entreprise, de savoir pourquoi est-ce qu'ils ont cette marge-là. Par exemple, je sais que tu as une marque de protéines assez célèbre, qui est assez ancienne, tu vois, qui était vraiment spécialisée produits de muscu, je sais pas si tu vois de laquelle je parle, qui est vraiment très populaire.
Basée en Angleterre ?
Non, pas basée en Angleterre, une autre qui est basée juste à côté de chez nous.
Je vois.
Qui était beaucoup apprécié et je vois beaucoup de commentaires sur internet de gens qui disent oui, ils se foutent de nous, ils augmentent les prix à des tarifs astronomiques qui sont bien au-delà de ceux de l'inflation. Et en fait, j'ai vu d'autres messages, notamment d'un internaute que je trouvais assez intéressant et qui était probablement correct, c'était qu'apparemment la marque chercherait à rentrer leurs produits dans des ventes de magasins physiques, ce qu'elle faisait pas forcément au départ. Et en fait, si tu veux, là, quand tu veux travailler avec des magasins en vente physique, bah, si t'as pas de marge, c'est très compliqué. Parce qu'en fait, il y a des intermédiaires qu'il faut payer à chaque fois. Du coup, si tu veux que ton produit, bah, il puisse se vendre en magasin, t'es obligé d'avoir un prix minimum, minimal, quoi. Voilà, tu vois, ou alors faut être que sur Internet. Mais t'as très peu de marques, en fait, qui sont que sur Internet. La plupart, elles sont un petit peu en magasin aussi. Et donc, c'est une politique commerciale aussi qui a été décidée, quoi. Apparemment, peut-être. Mais je sais pas, je suis pas dans
le... Est-ce que ça veut dire qu'il faut aligner les prix, que, par exemple, une marque qui est en magasin, si elle monte les prix pour justement se retrouver dans ses frais, est-ce qu'il faut qu'elle monte ses prix aussi sur son site, pour être raccord, pour qu'en fait, le prix au kilo soit le même en magasin ou sur le site?
Ah, bah, ils sont obligés parce que sinon, la problématique, c'est que, le client, par exemple, tu vas acheter t'achètes tes protéines chez ton magasin de sport préféré. T'arrives dans le magasin et tu vois la protéine à 23 euros et puis quand t'es sur le site internet, elle est à 18. Le magasin, il va pas être content en fait. Il va dire, non, attendez, moi je veux bien vendre vos produits, mais en fait, les gens, ils vont pas venir chez moi parce qu'ils peuvent l'acheter moins cher sur internet. Du coup, le site internet, s'il veut pouvoir continuer à proposer les produits en magasin, il peut être amené à augmenter ses tarifs. Je sais pas, hein, je suis pas dans les papiers de ces marques-là, je vois pas exactement, mais ça peut être une explication. Il y a aussi d'autres explications, c'est que quand même, en fonction de l'usine avec qui tu travailles, si tu veux, enfin moi des usines j'en connais, hein. T'as quand même plein d'usines où les gens ils sont payés au SMIC dans des conditions de MERDE. Je veux dire le bien-être au travail, les conditions de travail, les avantages salariés, etc. T'as rien du tout, tu vois. Donc forcément, quand t'achètes un produit, tu finances. T'achètes pas qu'un produit, tu finances l'entreprise qui a fabriqué le produit. Donc faut choisir aussi dans quel monde tu veux vivre, tu vois. Si t'as envie d'être mal payé, ben t'achètes le moins cher. Moi personnellement, c'est un peu comme ça que je vois. Et c'est quand même des choses qui sont assez importantes. Et puis après, ben il y a aussi, oui, après il y a la façon dont les contrôles qualité sont faits. Enfin tout ça, ça coûte de l'argent en fait. Et il faut bien répercuter le tarif quelque part. Donc je pense que le lien entre le prix du produit qui coûte à fabriquer et le prix auquel il est vendu, c'est pas toujours linéaire. C'est pas aussi simple que ça si tu veux. Donc parfois t'as des marques qui sont plus chères que d'autres, mais pour moi c'est plutôt bien.
Ah, c'est plutôt bien. Ok, justement, ouais. J'allais demander si c'était forcément gage de qualité ou pas nécessairement, parce qu'il y en a qui peuvent jouer là-dessus aussi.
En fait, c'est ça le truc, c'est que quand c'est pas cher, c'est rarement gage de qualité, en fait.
C'est presque une certitude, ouais.
Ouais, c'est presque une certitude, et surtout, si c'est qualitatif, ça veut dire que les gens qui ont travaillé pour faire ça, ils ont été payés vraiment au moins cher possible, ils ont eu des conditions pourries, tu vois. Ça, c'est ça.
Forcément. Il y a une raison quelque part.
Il y a une explication, bah oui.
C'est pas...
Non, mais je veux dire, je sais pas, c'est comme si tu vas faire tes courses dans un magasin. Enfin, après, tu me diras, c'est aussi la politique de l'entreprise de payer ses salariés correctement ou pas. Mais bon, bref. Voilà, ça c'est ce que je peux dire sur les tarifs pas chers. Sur les tarifs chers, c'est pas parce que tu payes cher que c'est forcément mieux. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a plus de chances que ce soit mieux. Parce que normalement, la marque, si elle a un peu d'éthique, elle est un peu sérieuse, bah, après, elle va voir chez qui t'achètes, bah, la marque, elle a quand même pu mettre des moyens pour choisir un produit de meilleure qualité, bien effectuer ses contrôles, faire en sorte que les gens avec qui elle travaille, bah, ils travaillent dans des bonnes conditions, faire en sorte que, bah, par exemple, je sais pas, par exemple, les emballages aujourd'hui des produits, parfois, tu sais, nous, chez Unai, on a des emballages écologiques à base de carton, là. Ça coûte quand même beaucoup plus, ça coûte beaucoup plus cher que des emballages en des boîtes en plastique en fait, tu vois. Et après ça dépend de la taille du sac, mais effectivement oui, enfin de toute façon, si tu veux les matériaux qui sont pas pétro-sourcés comme là nous on a du carton, on a des résidus végétaux etc., ça coûte toujours plus cher aujourd'hui qu'un emballage à base de pétrole de plastique qui est dérivé du pétrole. Donc c'est comme ça. Et donc forcément à toute chose égale par ailleurs, bah, le produit coûtera forcément un peu plus cher. Mais ça dépend de ce que tu veux, tu vois. Bon, bah, en même temps, c'est pour ça qu'il y a plein de marques différentes. Tout le monde peut trouver aussi un peu chaussure à son pied. Une marque qui est plutôt tournée vers l'écologie, le bien-être. Une marque qui est plutôt tournée vers le low cost. Donc, après aussi, on achète en fonction de ce qu'on peut, en fonction des moments de sa vie. On n'a pas toujours les mêmes moyens à chaque moment de sa vie, quoi.
Ouais.
Mais donc c'est difficile d'expliquer vraiment pourquoi chacun
c'est plus cher
fait... ouais.
Et alors pourquoi t'as pas tu t'es pas lancé dans les protéines en poudre?
Bah parce que en fait moi les protéines en poudre en fait nous la marque qu'on a fait avec ma femme c'est qu'on a voulu c'est une toute petite marque en fait si tu regardes on a très peu de produits tu vois on fait uniquement les produits qu'on prend ou qu'on trouve utiles en fait à la base. D'ailleurs, le principe de la marque, au début, c'était ça. On voulait faire nos produits pour nous. Et on s'est dit, bah, il y aura peut-être 2-3 personnes que ça va intéresser. Donc, bah, ils viendront prendre les produits, quoi. Et puis, s'il n'y a pas beaucoup de monde, c'est pas grave. En fait, nous, on aura des bons produits pour nous, qui seront dosés comme on veut, qui seront pratiques à prendre, qui seront dans nos valeurs aussi, sur l'écologie, justement, l'éthique et tout ça. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et en fait, les protéines en poudre, j'en utilise quasiment pas, quoi. Donc, pour le peu que j'utilise, je peux éventuellement les acheter chez certaines marques, tu vois. Donc moi, je fais pas de protéines en poudre.
Tu les achètes chez qui?
Non, je vais pas le dire.
Je vais pas le dire. Forcément pour un concurrent, ça c'est certain. Bon. Mais tu recommandes, est-ce que tu recommandes? Mais oui, tu recommandes les protéines en poudre. Alors tu m'as dit pour dans des situations particulières comme la personne âgée qui pourrait être en cas de sarcopénie, ça tu l'as écrit sur ton site web. Si on n'a pas le temps en termes de budget, t'es pas anti protéines en poudre parce qu'on en voit.
Non,
tu sais, il y a un
peu
tous les cours.
Protéines en poudre, non, pas du tout. Et pendant long longtemps, si tu veux, on avait aussi pas mal d'études qui disaient, en gros, les protéines en poudre, c'est le miracle. C'est vachement mieux pour prendre plus de masse et tout ça, c'est super. Et avec les années, on a eu de plus en plus d'études qui ont comparé les protéines en poudre aux vrais aliments et à différents types d'aliments. Et en fait, ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est que c'est pas très différent, en fait. Il n'y a pas une supériorité incroyable des protéines en poudre. Ça, c'est un mirage marketing, si tu veux. Donc, c'est pour ça aujourd'hui que j'en utilise très peu. C'est que moi, la plupart du temps, en fait, je vais manger avant l'entraînement, puis je vais manger après l'entraînement. Je cale en général mon entraînement autour de deux repas ou quelque chose comme ça, tu vois. Donc,
il n'y a pas une supériorité à prendre des protéines, quoi.
Non, il n'y a pas de supériorité. Ouais, après, il y a quand même des cas particuliers. Tu as certaines protéines qui sont spécifiques, avec des propriétés spécifiques que tu ne peux pas retrouver dans l'alimentation. Donc, c'est par exemple les hydrolysates protéines. C'est des protéines qui sont
peptides.
Prédigérées. Voilà. Ouais, c'est ça, des polypeptides. Donc, c'est un peu plus gros que des petits peptides. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, un peptide, en fait, c'est une protéine de petite taille, on va dire ça. Et le peptide est constitué d'unités unique qu'on appelle un acide aminé. L'acide aminé, en fait, c'est la base de construction d'une protéine. Quand on assemble, on prend un acide aminé tout seul, ça s'appelle un acide aminé. Quand on assemble deux acides aminés, ça s'appelle un dipeptide, trois tripeptides, et puis après, on parle de peptides, polypeptides, quand la chaîne est plus longue. Et les protéines, c'est des chaînes très longues d'acides aminés. Et voilà. Et donc, la particularité des peptides, c'est qu'ils sont digérés plus rapidement et avec moins d'efforts digestifs que des protéines complètes. Donc, les peptides peuvent être utilisés, par exemple, pendant l'effort. On peut même boire des protéines pendant l'effort. On peut évidemment pas manger un poulet pendant l'effort. C'est très compliqué.
Oui, pour la digestion.
Pour la digestion, c'est compliqué.
Logistique.
Voilà, donc c'est techniquement, il y a effectivement certains intérêts de protéines. Mais après, tout le monde va pas en tirer un bienfait, en fait. C'est que il faut quand même déjà avoir quelques années d'entraînement pour vraiment pouvoir utiliser les bienfaits de ce complément alimentaire. Sinon, c'est un peu
donc,
d'argent
en fait,
gâché.
Gâché, ouais. Surtout que ça doit pas coûter, ça doit coûter un bras, ça, non ? Comparativement
ça coûte
à des
plus cher,
protéines classiques.
Ouais. Mais d'ailleurs, ça me fait penser à un truc que t'as dit, Jérôme. Tu m'as dit que t'avais lu que je conseillais les protéines pour une question de budget en poudre. Et c'était vrai, effectivement, à l'époque, il y a quelques années, les protéines en poudre coûtaient moins cher que l'alimentation. Maintenant, la question est ouverte. Avec
ça serait équilibré.
Les augmentations, avec les augmentations qu'il y a maintenant sur les matières premières et les contraintes auxquelles sont soumises les usines, parce que les usines, elles subissent les augmentations des coûts d'énergie de façon très importante, parce que elles ont des compteurs électriques, des puissances électriques qui sont très élevées, et donc elles dépassent les seuils de réglementation des tarifs de l'électricité, et donc elles ont des augmentations de factures. Alors, tu l'as vu aux journaux, les boulangers qui ferment, les gens comme ça, donc sur des grosses usines, ça peut être des coûts vraiment astronomiques. Et du coup, ils sont obligés de répercuter ça quelque part. Alors que quand tu achètes des œufs qui ont été pondus par des poules à côté de chez toi, il n'y a pas une importante hausse du tarif en rapport avec l'énergie. Parce qu'éventuellement, il y a les grains qu'on a pu donner aux poules, mais ça reste petit, si tu veux, en volume total. Donc,
d'accord.
Voilà, il faut quand même bien réfléchir aujourd'hui par rapport à ça.
C'est donc prendre des, tu vois, si on veut choisir les protéines en poudre et choisir, on va dire, le nec plus ultra, ça serait donc les peptides.
Par rapport à le nec plus ultra, pourquoi?
Là, si on est vraiment dans la construction de muscles, récupération du tissu musculaire, performance musculaire également.
Je pense que ça dépend quand même aussi des gens, tu vois. Parce que t'as des gens qui adorent manger et qui peuvent manger beaucoup, tu vois. Si t'adores manger et que tu peux manger beaucoup, moi je te dis fais-toi plaisir en fait. Avant d'aller à l'entraînement, mange ce que t'as envie. Si t'as envie d'un bon filet de poulet. En fait, tu vois, c'est chaque personne est un peu différente. T'as des gens, c'est compliqué pour eux de prendre du poids parce que faire 4 repas par jour, c'est psychologiquement c'est difficile. Au niveau de l'estomac, c'est difficile. Et t'en as d'autres, c'est plutôt l'inverse. En fait, eux, ils adorent bouffer, donc du coup, pourquoi se priver d'un plaisir avec une poudre, en fait? C'est un petit peu dommage. Moi, par exemple, je suis plutôt le genre de gars... après, quand je commence à faire une vraie prise de masse avec 5 repas par jour, ça devient un peu compliqué pour moi. Je prends pas trop de plaisir et mon estomac, il sature un peu, tu vois. Donc oui, quelqu'un comme moi, par exemple, arriver à un certain moment, à un certain niveau, prendre un hydrolysat de protéines, d'ailleurs, je l'ai fait quand j'étais jeune, pendant l'entraînement, avec des glucides, pour moi, c'était d'une grande aide parce que ça me permettait de compenser, on va dire, ma faible capacité à manger au repas suivant, tu vois. Parce que, en plus, moi, je suis ce qu'on appelle dans mon bouquin, pour ceux qui ne l'ont pas ou qui vont l'avoir, plutôt un type N1. Donc, c'est une catégorie génétique de gens qui fonctionnent plutôt en brûlant des glucides. Et donc, j'ai des besoins en glucides qui sont assez importants, même quand je fais rien du tout. Et donc, si je fais du sport, j'en ai des besoins en glucides vraiment très élevés. Du coup, c'est pas évident pour moi de manger 500 grammes, 600 grammes ou plus de riz par jour, par exemple. Ça fait des grosses quantités.
D'accord. Bon, bah, ça va être vraiment individu dépendant. Alors, mais est-ce que... là, tu me dis la différence. Là où il y a le plus de différence, c'est sur ces peptides-là. Mais en termes de prise de muscle, c'est pas non plus... il faut pas s'attendre à des miracles. C'est pas des stéroïdes, hein, comme ça, d'accord.
Non, pas du tout. Si tu as les apports en protéines totaux qui sont suffisants, rajouter de la whey, ça va rien faire du tout, en fait. Ça sert à rien du tout. La protéine en poudre, elle est intéressante quand tu peux pas manger assez de protéines, quelle que soit la raison. Bah là, elle va apporter effectivement ce qu'il faut pour progresser plus vite. Mais en soi, c'est pas quelque chose qui va stimuler plus ta progression. Tu vois, il y a beaucoup de compléments alimentaires plus intéressants. On va en parler dans ce podcast qui sont... voilà, on va pas le dire tout de suite du coup, mais...
on va garder le suspense.
T'en as qui sont plus intéressants pour augmenter la force, la masse musculaire, etc. qui vont ajouter vraiment un plus à l'alimentation parce que l'alimentation peut pas du tout apporter ces nutriments-là, en fait.
D'accord. Est-ce que ça existe les peptides de végétaux, de protéines végétales?
Alors, pas à ma connaissance, non. Non.
Parce que là, pour l'instant, on parle entre la whey, l'hydrolysa, l'isola, tout ça, c'est d'origine laitière.
Ouais, d'accord. Tout à fait, ouais.
Dès qu'on passe dans les protéines végétales, qui prend une grosse part de marché aussi en ce moment... Est-ce que ça serait aussi efficace? Est-ce que ça l'est moins? Est-ce qu'il faut absolument qu'il y ait un mélange de différentes protéines végétales pour avoir un aminogramme complet, comme on dit? Est-ce que c'est toujours le cas, ça? Ou ça a évolué?
Non, pas exactement le cas. En fait, en vérité, si tu veux, si tu compares l'aminogramme d'une protéine végétale à l'aminogramme d'une protéine animale, donc soit de la viande, soit une protéine de lait en poudre, effectivement, la répartition des acides aminés, elle n'est pas la même entre les deux. Mais c'est une vision un peu étriquée que de regarder uniquement ces protéines-là pour savoir si elles conviennent ou pas. Parce que en réalité, ton organisme, il fonctionne pas à partir d'un seul repas. C'est-à-dire que si, par exemple, tu prends une protéine qui est déficitaire en lysine, par exemple, pendant un repas, et que au repas suivant, tu vas avoir des apports en lysine un peu plus élevés, ça va très bien fonctionner pour ton corps, en fait. C'est globalement, si tu veux, sur la journée, voire même sur plusieurs jours, ça s'équilibre. C'est pas... Les protéines végétales, elles n'ont pas des déficits en acides aminés suffisamment graves pour induire des problèmes protéiques, si tu veux. Donc, ça, c'est un peu un mythe. D'ailleurs, faut pas oublier qu'on retrouve tous les acides aminés dans les végétaux. Tu prends 100 grammes de brocoli, il y a tous les acides aminés dedans. Simplement, c'est la teneur qui est beaucoup plus faible que dans un produit d'origine animale. C'est la valeur absolue, quoi, la concentration. Donc, c'est principalement ça. Mais la raison principale pour laquelle les protéines végétales, c'est souvent des mélanges, en fait, d'abord, il y a le côté marketing, justement, pour pouvoir communiquer là-dessus, de dire, oui, protéines plus complètes, ou etc.
Ouais, c'est pour surtout compenser pour le... Ouais. Ah oui, ok.
Ah oui, parce que c'est souvent, elles sont pas bonnes.
Donc, quand tu mélanges tout, ça devient meilleur.
Ouais, quand tu... Il y a certaines protéines, quand tu les mélanges ensemble, c'est beaucoup mieux que si tu les prends séparément. Par exemple, le mélange pois et riz, ça marche beaucoup mieux que de manger que de la protéine de riz ou que de la protéine de pois, quoi. C'est beaucoup plus agréable.
Et ils n'ont pas encore fait en sorte de donner un bon goût de chocolat ou de vanille, selon ses goûts, à de la protéine végétale. C'est encore difficile, ça.
Ça existe peut-être, hein. Franchement, je ne connais pas toutes les marques... Je sais pas, faudrait voir chez Sync Protein, peut-être. Je crois qu'ils font des protéines avec des goûts.
Ah
et tout
oui,
ça.
Bah oui, oui.
Après, le problème, je connais. Franchement, je m'intéresse pas en détail aux protéines pour les sportifs. En plus, moi, ouais. Personnellement, ce qui me casse les pieds, c'est que les trucs aromatisés, c'est souvent des arômes chimiques avec des ajouts d'additifs comme la gomme xanthane ou des trucs comme ça qui sont pas forcément bons pour la santé intestinale. Il y a toujours un truc qui va pas, en fait, si tu veux. Ou alors, ça coûte super cher. Ou alors,
La caséine, on évite.
Ça m'enchante pas. Bah, la caséine, en fait, son intérêt, donc c'est pour ceux qui connaissent pas, effectivement, dans le lait, on a deux types de protéines. La caséine et la whey protéine. La whey protéine, c'est une protéine qui est plutôt digérée rapidement, on va dire. Et la caséine, elle a tendance à former un peu des petites boules et donc à se digérer plus lentement. Donc, à une époque, on recommandait la caséine, par exemple, avant de se coucher pour, soi-disant, bloquer le catabolisme nocturne.
Ouais, et puis avoir un apport protéique tout au long de la nuit, comme ça, comme si on était transfusé de protéines.
Et le lendemain matin, bam, bonjour la masse. Mais non, ça marche pas comme ça. On peut très bien prendre de la masse sans prendre de la caséine. En fait, l'avantage de la caséine, c'était plus qu'elle rassasie plus au niveau de la faim, parce que comme elle reste plus longtemps dans l'estomac, on est calé plus longtemps.
Et c'est vrai que disait Gundil. Hein.
Ouais, quand tu fais beaucoup de sport. Bah, typiquement Gundil, on peut dire que c'est quelqu'un qui fait beaucoup de muscu. Lui, il pourrait se réveiller la nuit, je pense, en ayant faim, par exemple, avec les entraînements et la difficulté justement de manger suffisamment et sainement en même temps. Donc la caséine peut être intéressante dans ce cadre-là. Après, moi, je suis pas fan de la caséine parce que c'est la protéine la plus antigénique du lait, c'est-à-dire que chez certaines personnes génétiquement prédisposées, elle est plus à même de provoquer certains problèmes de santé. Donc,
De type perméabilité intestinale, c'est ça, de ce que j'ai vu ?
Perméabilité intestinale, mais on a aussi des études qui suggèrent que certaines protéines de la caséine sont impliquées dans la survenue de maladies auto-immunes, comme le diabète de type 1, par exemple. De type 1. Ouais, le diabète de type 2, c'est ce qu'on appelle le diabète gras, le diabète sucré. En général, c'est des personnes qui ont tendance à être un petit peu en surpoids, un peu trop de graisse, ils font une résistance à l'insuline, donc ils ont trop de sucre dans le sang. Donc, c'est plutôt lié à une mauvaise alimentation, on va dire. Et le diabète de type 1, c'est une maladie auto-immune dans laquelle le système immunitaire s'attaque à une partie du pancréas, qu'on appelle les îlots de Langerhans, qui produisent l'insuline. Mmh. Et donc, en fait, cette partie de pancréas, elle est détruite. Du coup, tu produis plus d'insuline, donc ton sucre reste anormalement élevé, et c'est une maladie grave, hein. Parce que contrairement au diabète de type 2, ça se soigne pas. Soigne, mais ça se guérit pas. Voilà.
Ouais, d'accord. Ouais, à part prendre de l'insuline, mais le diabète de type 1 est très majoritairement touche les gens, touche les jeunes. C'est quelque chose de la naissance, puisque c'est auto-immun.
Non, ça a pas de rapport le fait que ce soit auto-immun et que ce soit jeune. Ce qui est sûr, c'est que ça touche beaucoup plus les petits, souvent les petits enfants. Parce qu'en fait, la première exposition aux protéines de lait, c'est à travers du lait maternisé dans les biberons. Et t'as des études en Finlande qui ont été faites là-dessus et qui ont montré qu'effectivement, les mamans qui allaitent leur bébé, ils ont beaucoup moins de chances de développer un diabète de type 1, les bébés, que les enfants qui sont allaités avec un biberon. Mais pourquoi je te parle de ça ? C'est parce que moi, je connais un gars qui est sur les réseaux sociaux, qui est dans le domaine muscu, qui me suit depuis longtemps, qui a un très bon niveau en muscu et qui
tu
a
peux
développé
pas donner son nom ?
Non, parce que par respect pour sa vie privée, tu vois. Parce que je parlais de sa santé.
Ok. Moi, je pensais que c'était quelque chose de. Ok. C'est secret.
Non, c'est par respect pour lui. J'ai pas demandé son autorisation en plus.
Non, mais je pensais qu'il en parlait déjà et c'est pour ça que je voulais savoir. Mais comme il le dit pas, oui.
Non, pas spécialement. Pas spécialement. Mmh. Donc, il a développé un diabète de type 1. Je sais pas, il avait 40 ans, quoi, ou entre 35 et 40 ans. Donc, c'est rare, mais ça arrive. Donc, du coup, apparemment, il avait un facteur génétique. Manifestement, dans mon souvenir, quand j'avais discuté avec lui, il avait probablement déclenché la réaction auto-immune suite à une infection virale ou bactérienne. Parce que quand tu as une infection, certaines infections, ça fragilise l'immunité au niveau intestinal. Et donc, tu as des protéines étrangères, donc on appelle des antigènes qui viennent de l'extérieur, qui peuvent passer dans le sang alors qu'elles ne devraient pas. C'est un peu le début de la réaction auto-immune. Donc, de toute façon, il y a aussi un truc important qu'il faut savoir dans la vie en général pour la santé, c'est que quand on est malade, du genre t'as une gastro, t'as un virus, un truc bizarre, etc., faut absolument éviter de manger du pain, de manger des produits laitiers, des trucs comme ça. Faut manger des trucs hyper sains si possible pour éviter justement des réactions antigéniques ou des choses comme ça, parce que t'as pas mal de maladies auto-immunes qui se déclarent à la suite d'un virus intestinal.
Ok, ouais, de toute façon, t'es malade, ton corps lutte contre quelque chose, on évite de lui mettre, on évite de l'empoisonner encore plus. C'est un peu.
Ouais, mais ce qui n'est pas évident, c'est que quand t'es malade, souvent t'as pas d'appétit. Et donc, quand tu commences à avoir faim, tu te dis, bah, je vais manger ce que je peux manger, quoi, pour regagner un petit peu de force.
Ouais.
Et donc, il faut essayer de manger un truc pas trop pourri.
ouais, du riz.
Ouais, le riz, c'est pas mal. Ça peut être bien, à la rigueur, d'avoir des. De fruits aussi chez soi, ça te rapporte un peu de sucre si t'as pas mangé, tu vois, depuis 2 jours ou je sais pas trop. Des bananes, des choses comme ça.
D'accord,
quoi.
D'accord. Bon, bah alors la caséine, on évite un peu par rapport à ces problématiques-là.
Il y a des gens qui vont très bien le supporter, tu vois. Mais le problème, c'est comment tu fais pour le savoir. Moi, je sais pas lire dans le génome. Hein.
Donc. Prévention, précaution, voilà, précaution.
Bon, moi, je préfère. Surtout pour le peu de bienfaits supposés.
Que ça apporte, ouais. Et alors, une dernière chose sur les protéines, quand même, parce que j'ai vu que, dernièrement, il y a eu quelques échauffourées entre, entre influenceurs ou, alors, pas coach pour le coup, qui créent un petit peu tous leurs marques de compléments sur le circuit court, le circuit long. Est-ce que le lait, les matières premières devraient venir de France? Est-ce que ça devrait venir d'un autre pays d'Europe? Comment on fait le, qu'est-ce que t'en penses de cette histoire?
Bah, j'en pense que ça me fait rire les mecs qui disent qu'ils font des marques circuit court alors qu'ils ont exactement le même circuit que les autres. Hein. C'est tout le monde pareil, donc ils sont pas plus courts que les autres. Celui qui serait le plus court, ce serait le fabricant de protéines. Donc là, on prenait l'exemple de Lactalis. Je crois pas que Lactalis vende ses propres protéines en poudre pour sportifs. Ou alors, je connais pas la marque. Mais bon, la plupart des marques, c'est pareil. Il n'y en a pas une qui est plus courte que l'autre. Hein. Ça, c'est un peu du marketing.
Mais quel genre de... Ça veut dire quoi, circuit court? Ça veut dire qu'on vient récupérer le lait à un endroit, on le transforme directement en protéines au même endroit?
Soi-disant.
C'est censé être ça.
Ouais, soi-disant, circuit court, c'est... t'as le gars avec sa marque, il prend son sac à dos, il va chez... son voisin qui est éleveur, par chance, il est éleveur de vaches, il traite le lait, il le met dans son truc et dans son garage, il fabrique la protéine en poudre et il la met dans un sac directement lui-même et il te l'envoie par la poste. Ça, c'est circuit court, tu vois. Mais ça n'existe pas, circuit court. Circuit normal, c'est tout le monde pareil. On achète les ingrédients qu'on veut mettre dans un complément alimentaire chez un fabricant d'ingrédients. Et des fabricants d'ingrédients, t'en as des millions, tu vois. Fabricant d'ingrédients, c'est son métier. En général, c'est des pôles d'agriculteurs, c'est des regroupements d'agriculteurs, ils vont vendre des graines pour faire de l'huile, par exemple. C'est un moyen pour eux de se fédérer. Tu peux pas, en fait, c'est quasiment impossible d'aller justement voir ton voisin qui a des vaches pour prendre son lait et faire des protéines en poudre. Tu peux peut-être le faire, mais le truc, c'est que déjà, il va te falloir un investissement de plusieurs millions d'euros pour avoir des machines pour pouvoir extraire la protéine et la mettre en sachet, la déshydrater, etc. Donc, financièrement, c'est pas possible d'avoir de tels équipements quand t'as des volumes aussi petits. Et puis, si c'est juste une petite ferme à côté de chez toi, en fait, tu vas fabriquer 2 pots de protéines pour toi et pour ta mère. Et puis, c'est tout, hein. Donc, ça marche pas. Donc, tout le monde fait la même chose. Tout le monde achète les ingrédients quelque part. Tout le monde le fait mettre ensuite en paquet. Soit à la même usine, soit à une autre usine, mais ça revient au même. Et ensuite, on réceptionne la marchandise. Et on la vend aux consommateurs. En gros, c'est plus ou moins tout le monde fait la même chose, en fait. On peut internaliser des choses, bien sûr, mais ça change pas la face du monde en termes de coûts et tout ça. C'est un peu pour moi, en tout cas. Après, je ne connais pas tout, je ne suis pas.
Mais tu n'es pas Dieu.
Non, mais bon, c'est le problème de la protéine, en fait. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que maintenant t'as tellement de choix, tellement de marques, et c'est tellement demandé. Qu'il faut se démarquer. Donc, tout le monde fait un truc un tout petit peu différent, et puis je sponsorise un tel, et je sponsorise machin, et je fais. Donc, c'est un peu compliqué de trouver forcément chaussure à son pied. Et sincèrement, aujourd'hui, je sais pas s'il vaut mieux acheter une protéine originaire d'Autriche, de France, d'Irlande. J'ai découvert aussi qu'il y avait des marques de compléments alimentaires qui avaient menti à leurs clients. En disant que c'était de l'Isola alors que c'était pas de l'Isola. Et des marques très connues, hein, ceux qui sont là et qui nous écoutent doivent peut-être la connaître. On pourra pas dire le nom, bien sûr. Bref, c'est compliqué.
Ok, bon, c'est un vrai business. Pour s'en sortir, c'est pas facile. Bon, on a des pistes de réflexion déjà, hein, sur les protéines. Déjà, on a compris que c'était pas obligatoire, que ça pouvait être utile dans certains cas.
Ouais.
Et essayer de privilégier la qualité. La qualité. Après, le problème, c'est qu'il faut regarder les étiquettes, faut aller scruter le site. C'est ça, hein, tout le temps. Hein. Bon, c'est pour ça que j'ai du mal à...
Ouais, c'est compliqué. Et puis même les sites internet, aujourd'hui, t'en as qui respectent pas les législations. Donc, ils racontent un peu des bobards, tu vois. C'est aussi que c'est pas assez contrôlé, malheureusement, les compléments alimentaires. Parce que...
Alors, c'est marrant, parce qu'on dit justement que c'est ultra contrôlé. Qu'on est dans un pays où ça contrôle beaucoup, il y a des normes sanitaires qui sont très élevées.
Ce qui est très contrôlé, c'est à la fabrication. C'est-à-dire les usines qui sont en France, qui fabriquent donc, des compléments alimentaires, par exemple, qui vont mettre en pot, etc. On a toutes des normes chez nous, HACCP, des normes ISO, etc. Et pas mal de contrôles des autorités sanitaires qui font que les produits sont, en général, très qualitatifs. Ça, il n'y a rien à dire. Ça, c'est un truc sur lequel je peux vous dire que c'est universel. Effectivement, quand vous achetez des compléments alimentaires, si c'est fabriqué en France, c'est vraiment un gage de qualité pour le coup. Tu vois, quelle que soit la marque, c'est quelque chose de très positif. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, il y a beaucoup de marques, excuse-moi de couper Jérôme, mais il y a beaucoup de marques étrangères qui font fabriquer en France à cause de la qualité, des normes d'hygiène, etc. Donc ça, c'est correct.
Par contre, même si tu fais venir les produits de l'étranger, par exemple, tu fais venir la matière première de l'étranger, mais tu fabriques en France, c'est nickel.
Ouais, c'est beaucoup mieux que si tu fais fabriquer à l'étranger. Après, je connais pas tous les pays et toutes les normes de fabrication dans tous les pays, mais je sais qu'en France, c'est vraiment extrêmement rare qu'il y ait des problématiques sur des choses qui sont mises en France. Beaucoup d'usines sont quand même très sérieuses, elles font beaucoup de tests. Déjà, il y a des tests microbiologiques qui sont faits tout le temps. À la réception des lots, il y a des tests qui sont faits pour contrôler les teneurs en protéines, etc., etc. Donc, on est quand même sur une démarche qui est quand même assez qualitative. Si tu veux, je pense que c'est beaucoup plus rassurant pour moi d'aller acheter aujourd'hui ces compléments alimentaires par une marque qui fabrique en France qu'une marque qui fabrique ailleurs, quoi. Au moins, c'est quand même un avantage de la France. Par contre, ensuite, à ce qui concerne les sites internet et tout ce qu'il y a autour, alors là, ça, c'est la foire. Et aujourd'hui, il n'y a pas encore beaucoup de contrôle. Alors, la législation est en train de se durcir, là, maintenant, que la DGCCRF a changé un peu son mode de fonctionnement. Ils ont publié des listes, de bonnes pratiques, etc. Donc, on va voir ce que ça va donner dans plusieurs années, parce que c'est un domaine qui se développe. Donc, au bout d'un moment, il va peut-être y avoir un peu plus de contrôle. Et il y aura peut-être quelques scandales, je pense.
Scandale sanitaire, ouais.
Sanitaire ou pas forcément sanitaire, mais tu vois, sur les vendeurs de rêve, quoi.
C'est chiant parce que moi j'ai toujours envie de te demander qui vend du rêve, mais évidemment tu vas pas me le dire. Mais ok, donc.
Quand je pourrais donner des noms, on fera un autre podcast.
Où tu donneras tous les noms, faudra balancer, là faudra tout dire. Ouais, qu'on sache.
En fait, je donne des noms quand les affaires sont finies. Tu vois, là je vous ai raconté l'histoire de Force Ultra Nature parce que c'est terminé. Bah à la fin, je donnerai d'autres.
Ok, bon, ben alors on a de ça. Alors justement, tu vois, ça faisait partie de mes questions aussi, à qui se fier en termes de compléments. Alors, fabriqué en France, déjà, c'est bien.
Ouais, c'est bien.
Quels sont les paramètres qu'il faudrait prendre, même si on peut pas tout savoir sur un site, si il y a plein de choses qui sont cachées, qu'est-ce qu'on devrait prendre en compte pour être certain d'avoir quelque chose de bon, pour la santé évidemment, de qualité, et ben, de performant aussi, tu vois. L'objectif, c'est si tu prends des protéines, c'est que ça soit pas du vent, quoi. Parce que
alors,
le vent, c'est
de
qualité,
quoi,
mais
on parle
ça
de
jamais,
protéines
ça
en poudre,
fait.
C'est ça. Protéines en poudre.
Ben là, j'étais sur la protéine en poudre. Après, peut-être que tu penses à d'autres.
Écoute,
qui vont avec.
Je vais te dire sincèrement, je me sens pas qualifié pour répondre à ta question.
Ok.
J'ai pas assez de connaissances de la façon dont ça se passe chez la plupart des marques aujourd'hui qui ont le vent en poupe pour les protéines pour te dire laquelle je recommanderais. D'ailleurs, je t'ai dit que moi, j'achetais de temps en temps des protéines. J'achète pas toujours la même marque, tu vois. Donc,
tu varies, ok.
Ouais.
Est-ce
ça
que
m'arrive
tu varies
marques différentes.
Est-ce que tu varies par hasard ou par goût, par différentes saveurs, par exemple, ou est-ce que tu varies en te disant, je prends pas toujours le même, parce que si jamais il y a de la toxicité, je varie la toxicité pour éviter d'avoir une surcharge toxicitaire, tu vois.
Non. C'est plutôt en fonction. En fait, le truc, c'est que moi, j'ai une approche... quand j'achète des compléments alimentaires, c'est pas forcément la même que celui du consommateur. C'est que j'achète aussi, sachant que je suis fabricant. Donc, parfois, je suis curieux de voir ce que font les autres. Donc, j'achète et j'essaye. pour voir. Je dis ouais, bah c'est pas mal ce qu'il a fait. Donc je suis quand même, tu vois, je vends pas de protéines, mais je suis un peu ce qui se fait. Je trouve ça. Voilà, je trouve qu'il y a des trucs pas mal. Par exemple, Christophe Cario, que j'ai bien connu et avec qui. Salut Christophe. Avec qui j'ai eu des différends sur, on va dire, la fin de quelques années. On va dire, on a eu des petits différends. Mais sinon, je trouve qu'il fait des choses bien. Il y a des choses qui sont bien dans sa marque. Par contre, il y a des choses dans sa marque que je trouve vraiment très nulles. Mais voilà, je regarde. Non, mais c'est vrai.
Oui, non, mais t'as raison de dire, mais s'il tombe sur cet extrait ou s'il écoute le podcast, il va avoir un sourire et juste après, il va se dire « Oh, il va y avoir une double ascenseur émotionnel.
» Non, mais je veux pas, voilà. Moi, je trouve ça, en fait, comment expliquer? Si tu veux, j'ai une opinion, j'ai des choses personnelles avec Christophe, mais Christophe Cario, je trouve que c'est quelqu'un qui a quand même tiré vers le haut le domaine de la muscu française, qui a fait des choses positives, qui a pas que des qualités, mais qui a fait des choses positives, etc. Et moi, je trouve ça bien aussi les gens qui savent représenter leur marque, tu vois. Quelqu'un qui dit, c'est un peu nous ce qu'on fait, on se cache pas derrière notre marque, tu vois. C'est Unae, c'est nous, voilà. NutriPure, bah, il présente, c'est Christophe Cario et Florent Cario. Mais t'as plein de marques, en fait, tu sais même pas qui est derrière. C'est des investisseurs, c'est des gens, ils sont là que pour le pognon. Ils font pas de sport, ils y connaissent rien, ça les intéresse pas la muscu. Ils prennent pas de protéines, ils en ont rien à faire. Donc là, je pense que vous pouvez facilement voir de qui je peux éventuellement parler. Moi, personnellement, je préfère donner mon argent à des gens qui sont des passionnés, même si y a certains d'entre eux dont je trouve le comportement ridicule, puéril, que je les trouve pas forcément très honnêtes, etc. Je trouve ça plus admirable des gens qui ont des convictions personnelles et qui savent les défendre et qui créent des choses qui apportent de la valeur. Voilà.
Ouais, moi je suis d'accord avec ça aussi. Et puis il y en a plusieurs, hein, je vais pas les nommer, mais il y en a quelques-uns auxquels je pense que tu fais référence à Christophe, mais il y en a d'autres évidemment.
Ouais.
Souvent, ce sont des marques qui sont faites par passion aussi. Tu vois, il y a vraiment ce truc-là, par passion et par envie de faire quelque chose de bien. Pas que de faire de la thune, en tout cas. Bon, alors les protéines, c'est pas le mieux, finalement, tu m'as dit. Bon, ça fait presque une heure qu'on déblatère, donc on va passer à autre chose. sur les protéines en poudre, pour finalement dire que c'est pas le mieux.
Attention, mon cher Jérôme, parce que d'ici trois quarts d'heure, je pars chercher mon fils à l'école.
Eh bien, écoute, le timing est lancé. On a trois quarts d'heure pour savoir ce qui est le mieux pour construire du muscle, pour être plus performant, pour avoir des compléments sportifs de meilleure qualité. Les protéines en poudre, ok, ça. Les BCA, est-ce que c'est mieux?
Alors, les BCA, donc pour ceux qui ne savent pas, BCA, c'est de l'anglais, ça veut dire branched chain amino acide, acide aminé branché. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un mélange de trois acides aminés qui sont la leucine, l'isoleucine et la valine. La particularité de ces trois acides aminés, c'est que les recherches ont montré que c'était un peu les acides aminés qui sont déclencheurs de l'anabolisme. C'est-à-dire que si on n'a pas ces trois acides aminés dans une protéine, eh ben, on ne va pas déclencher le processus de construction musculaire. En gros, on va dire que c'est ça. Et parmi ces trois acides aminés, on a identifié qu'il y en avait un qui était particulièrement important, qui s'appelle la leucine. Et donc, les BCA, c'est un mélange de ces trois acides aminés. Et souvent, il y a un petit peu plus de leucine que des autres acides aminés. Donc, pendant très longtemps...
Ils sont plus chers? Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé.
Plus chers que quoi?
Est-ce que ces trois sont plus chers que tous les autres acides aminés, par exemple? Qui expliquerait pourquoi on les a...
Ouais, c'est plus cher, ouais. Bah, en fait, de façon générale, les acides aminés seuls sont plus chers que les protéines à dosage égal.
Ok.
Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, je vois.
C'est lié aux méthodes de fabrication. Enfin, à une époque, on extrayait des acides aminés de plumes ou de cheveux d'enfants chinois. Mais aujourd'hui, sur le marché, sans rire, hein. Mais aujourd'hui, sur le marché. Ouais, sur le marché, franchement, je pense que, à mon avis, 99% des marques, elles proposent des acides aminés qui sont obtenus par fermentation. Parce que cette affaire-là avait fait beaucoup de bruit, donc plus personne achète de trucs comme ça douteux. Donc c'est produit par fermentation, donc c'est clean, c'est vegan, c'est propre, c'est pur, voilà, c'est très bien. Et donc du coup ces processus de fabrication sont plus coûteux que que d'extraire une protéine du lait, par exemple. Ouais. Vas-y.
Non, parce que j'imaginais, est-ce que c'est déjà arrivé ou t'as déjà entendu qu'un fabricant de protéines décide d'enlever ces trois acides aminés parce que ce sont les plus chers et de vendre une protéine qui ne comporte peu ou pas de ces trois acides aminés en disant que ça avait les mêmes performances qu'une protéine complète?
Non, parce que je pense qu'elle va lui coûter plus cher d'enlever les trois acides aminés que il va pas, financièrement, ce truc-là va pas être très rentable, à mon avis.
Ok. Parce que dans ma tête, je faisais le parallèle entre quand on te vend un produit où il n'y a rien dedans, te faisant croire que ça va te donner des performances, tu vois. Bon.
Ouais. Non, là, je pense pas. Je n'irai pas jusque-là.
D'accord. Ok.
Par contre, donc les BCAA, pendant très longtemps, donc, du coup, on avait découvert aussi que le muscle avait besoin de beaucoup de BCAA. Donc, c'était la mode des BCAA. On disait, ça y est, on a trouvé la clé pour le développement musculaire extraordinaire, les BCAA, et bam, on va se réveiller le matin et on va faire 150, 160 kilos minimum. Et ça ne s'est pas produit. On a des études plus récentes qui montrent que, a priori, si tu as assez de protéines dans ton alimentation, les BCAA ne procurent pas beaucoup de bienfaits. Alors moi, je pense que c'est à tempérer un petit peu, parce que quand les efforts sont un petit peu prolongés, et assez intense, je pense que les BCAA, en particulier s'ils sont couplés à la taurine, peuvent apporter un bienfait significatif en termes d'effet anticatabolique et donc accélérer la récupération. Maintenant, c'est probablement pas un complément alimentaire super indispensable, quoi, non plus. Ça fait beaucoup de compléments alimentaires pas indispensables aujourd'hui, mais bon.
Ouais, mais on va arriver, on monte tranquillement comme ça en hiérarchie. Le fait qu'il y ait un différent rapport entre le cine et les autres trois acides aminés,
ah oui.
Donc il y a le 2-1-1, ouais. 4-1-1, ouais. J'ai vu même jusqu'à du 8 ou 12-1-1. Bon, on exagère là où ça a vraiment
En fait, il y a une histoire là-dedans, donc c'est que à l'origine, il y avait que du 2-1-1, donc c'était 2 leucine pour 1 valine et 1 isoleucine. Ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que on a des études qui ont montré que avec l'âge, quand tu fais de la muscu ou quel que soit ce que tu fais, tu vas prendre moins de masse musculaire et tu vas tendance à la perdre plus facilement. Et un des mécanismes de ça, c'est ce qu'on appelle la résistance à la leucine. C'est-à-dire que pour la même quantité de leucine que tu ingères, ton corps répond moins bien. Il faut plus de leucine pour stimuler les voies de construction musculaire que quand tu es jeune, en fait. Du coup, tu as besoin peut-être d'un peu plus de protéines quand tu es âgé, si tu veux stimuler la prise de masse que quand tu es jeune. C'est de là que vient l'idée de surdoser en fait les BCAA en leucine. Et je pense même pouvoir dire que c'est notre ami Michael Gundil qui a peut-être popularisé ça le plus, parce qu'il me semble que c'était quand il travaillait, je sais pas s'il travaille toujours avec Nutrimusc. En tout cas, à l'époque, il me semble que c'était lui le premier qui avait mis ça chez Nutrimusc. Mais je suis pas sûr, tu nous corrigeras Michael. On dit une bêtise.
Il me semble pas en avoir discuté avec lui de ça quand je l'avais reçu.
Mais en tout cas, à mon humble avis, je pense que ça sert à rien de bourrer de leucine pour simuler spécialement l'anabolisme. Déjà, ce qui est sûr, c'est que ça sert à rien si t'es jeune. Ça sert à rien. Donc, si t'as moins de 30 ans, tu prends des BCA 48-1-1 ou 2-1-1, c'est pareil. Je pense que ça sert à rien du tout. Sauf si vraiment ton alimentation est très pauvre en protéines et que t'es en plus en cachexie, et là, peut-être. Mais non, voilà, en gros, je pense que ça sert pas à grand-chose. Et pour les personnes âgées, c'est peut-être utile, mais personnellement, je pense que ça reste à démontrer.
Ok, un bon apport protéique, hein, de toute façon, compensera ou en tout cas sera suffisant. Ça sera pas nécessaire de rajouter des BCA, sauf peut-être pendant l'entraînement.
Bah, si tu fais des entraînements vraiment intenses, avec beaucoup de volume musculaire et que c'est vraiment catabolisant, moi je pense que c'est effectivement un truc que tu peux intégrer dans ta boisson d'effort. Ouais.
Ok. Rien à voir avec l'énergie. C'est parce que ça t'apporte pas de plus d'énergie,
non.
C'est parce que ça te fait récupérer.
Alors, c'est parce que ça va limiter le catabolisme musculaire pendant l'effort. Il y a aussi un petit effet sur l'énergie, mais c'est l'énergie psychique. Parce qu'en fait, ces trois acides aminés-là, quand tu les prends seuls et qu'ils arrivent au niveau cérébral, ils vont ralentir un peu La montée du tryptophane, qui est un acide aminé qui peut se convertir en sérotonine et qui contribue à la sensation de fatigue. Donc les BCAA peuvent diminuer un peu la sensation de fatigue psychique, mais la sensation de fatigue psychique, c'est super important, hein, c'est ce qui te donne l'envie de pousser. Donc ça peut aussi aider un petit peu là-dessus.
Ok, vraiment, vraiment intéressant. Alors, si on passe le cap au-dessus, sur l'utilité, qu'est-ce que tu recommanderais, tu vois? Je m'étais mis la créatine, mais est-ce que la créatine, c'est bien pour le sportif?
Ouais, la créatine pour le sportif de force, c'est vraiment bien. Simplement, t'as des gens qui vont pas ressentir les bienfaits de la créatine. Et donc, il faut, du coup, ils vont dire, ouais, mais ça marche pas et tout ça. Ou alors, ils vont le prendre pendant un mois ou deux. Et du coup, ils vont dire, ouais, j'ai pris avec la créatine, puis après j'ai arrêté la créatine, j'ai tout perdu. Si tu l'utilises pas bien, la créatine, tu vas pas être content. Mais si tu l'utilises bien, c'est bien.
Ok.
Ça fait beaucoup de bien.
C'est la monohydrate, hein, qui est vraiment celle qui a prouvé, qui a eu le plus d'études qui ont prouvé son efficacité.
Ouais, c'est celle qui est la plus documentée. Aujourd'hui, la marque Créapure, elle est très populaire pour la créatine, mais en fait. C'est un peu marketing aussi. Toutes les monohydrates maintenant sont pures de la même façon que Créapure, parce que les usines, elles ont quand même relevé leur niveau depuis l'invention du label Créapure. Donc une créatine monohydrate aujourd'hui sur le marché, pour moi, c'est toutes les mêmes. Ça change pas grand chose. Parce que je sais qu'aujourd'hui, quand on cherche la créatine, on veut de la Créapure, mais.
Et ouais, c'est marrant parce que Créapure, moi, je pensais que c'était plus un genre de label qui était un peu comme. Le label rouge, tu vois. Je savais pas que c'était, tu vois, il y a une marque, il y a un site.
C'est une marque. C'est comme Lactalis. Tu vois, Lactalis, c'est une marque de protéines. Mmh. Enfin, c'est une marque de produits laitiers, un groupe. Donc, en gros, Créapure, c'est pareil. C'est une marque déposée par une société qui s'appelle Alchem, je crois. Quelque chose comme ça. Voilà, mais en tout cas, c'est une marque. C'est pas un label. Non, c'est une marque. Okay. Et dans leurs engagements de marque, ils disent que. Ils vont faire en sorte que les taux de composés résiduels toxiques sont très très faibles, etc. Mais en fait, à ma connaissance, même si tu achètes de la créatine chinoise, c'est la même. Mais bon. Mais c'est très bien de prendre de la créature, ça fait fonctionner l'industrie allemande.
C'est pas un mythe, donc. Hein. Tu prends de la force avec de la créatine, si tu fais ça bien, comme tu l'as dit. Donc, il faut faire les choses de manière bien. C'est-à-dire que ce ne sont pas des cycles, ce ne sont pas des périodes. Tu peux le prendre à vie, toute l'année, quoi. C'est ça. Ça va te permettre d'avoir suffisamment d'énergie pour des efforts rapides et intenses et potentialiser ta prise de muscle et ta prise de performance.
Ouais, en gros, c'est tout simple. C'est que quand tu fais du sport, ton muscle, il va utiliser 3 sources d'énergie, en gros. Simplifie, hein. La créatine pour les efforts courts, les glucides pour les efforts moyens prolongés et les lipides pour les efforts très prolongés. Donc, quand tu fais de la muscu, tu utilises beaucoup la créatine, un petit peu les glucides et beaucoup moins les lipides. Mais ça dépend encore une fois de ton état nutritionnel. C'est-à-dire que si tu arrives à jeun à la salle de muscu, tu vas utiliser plus de lipides que quelqu'un qui vient de manger, tu vois. Mais en gros, métaboliquement, c'est un petit peu ça qui se passe. Quand tu prends de la créatine, donc tu vas stimuler la création de phosphocréatine dans le muscle, qui est donc ce fameux carburant de la contraction musculaire courte. Et en fait, quand tu prends de la créatine, tu recycles plus rapidement la phosphocréatine, donc tes muscles ils se contractent plus fort, plus efficacement, ils retiennent un peu mieux l'eau, donc ça stimule un peu la synthèse protéique aussi en dehors des entraînements, donc tu récupères un peu plus rapidement. Et donc, in fine, enfin, beaucoup de gens, en tout cas, voient des bienfaits. Ils disent « Ah ouais, j'ai pris de la force et tout ça, c'est super. » Donc voilà. Mais tu as aussi des gens qui voient que ça marche pas. Et puis, tu as beaucoup de gens, quand ils arrêtent, ils disent « Bah ouais, j'ai arrêté, mais j'ai tout perdu. » Donc, en fait, il faut comprendre 2-3 trucs. D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que la créatine, elle peut t'aider à être plus fort. Donc, si tu es plus fort et que tu mets plus lourd, normalement, tu dois progresser plus vite. Donc, tu dois prendre de la masse musculaire plus rapidement. Surtout si, en plus, ça aide un petit peu à la synthèse des protéines musculaires. Tu dois normalement prendre du muscle plus rapidement. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la prise de masse musculaire réelle, c'est un phénomène lent. C'est super lent. En fait, au début, tu t'entraînes, tu prends de la force, tu prends plus lourd, tu fais plus de répétitions, mais t'as pas pris de muscle, en fait. T'as pris de l'eau, t'as pris du glycogène, t'as pris de la créatine, et t'as ordonné tes unités motrices. C'est les petits injecteurs électriques qui contractent tes fibres musculaires. tout ce qui se passe pendant, c'est au moins 1 à 2 mois d'entraînement, c'est uniquement ça qui se passe. Tu prends pas de la masse. C'est pas parce que t'arrives et que le lendemain t'es plus fort que t'as pris de la masse. Non, il s'est rien passé en fait. C'est à partir de 3 mois à peu près que tu commences vraiment à prendre de la masse, à construire du muscle. Quand je dis ça, c'est-à-dire que ça devient visible. On arrive à le voir, à le mesurer. En réalité, tu prends effectivement un tout petit peu de masse musculaire à chaque entraînement, mais on parle de grammes, tu vois, c'est très très petit quoi en fait.
Ouais,
et ça devient vraiment significatif au bout de 3 mois. Donc c'est intéressant de garder comme en tête cette notion parce que dans les études sur la muscu, c'est à partir de 3 mois qu'on voit vraiment quelque chose. Donc toi, si tu t'entraînes moins de 3 mois, c'est pas que c'est inutile, hein, mais c'est que c'est dommage, tu vois. Tu n'es pas encore arrivé au stade où tu pourrais faire mieux. Et avec la créatine, en fait, le but de la créatine, c'est que du coup, comme tu es plus fort avec la créatine, bah, il faut utiliser ce potentiel. Donc la créatine, si tu la prends moins de 3 mois, c'est vraiment bête. Parce qu'en fait, tu vas prendre de la force, parce que tu vas avoir plus de créatine dans le muscle, plus de réserves énergétiques, et comme tu prends plus lourd, tes unités motrices, elles vont mieux se synchroniser, etc. Donc tu vas améliorer ce potentiel de force, mais tu vas pas encore vraiment augmenter tes gains de masse musculaire. Donc en fait, si tu veux avoir des gains durables avec la créatine, il faut prendre au moins 3 mois. Et en fait, si tu prends 3 mois de créatine, eh ben, très clairement, et que tu as fait les choses correctement, ça veut dire que tu as bien mangé, tu t'es bien entraîné, patati patata, bah, à la fin des 3 mois, tu auras pris plus de masse musculaire que si tu n'avais pas pris de créatine. Ça, c'est sûr. Ensuite, tu as quand même d'autres facteurs, si tu me permets de continuer vite fait.
Bien sûr.
Parce qu'il faut la prendre aussi correctement. C'est que il faut essayer d'en prendre entre 3 et 5 grammes par jour, répartis au long de la journée, au cours des repas. Parce qu'elle a besoin d'un petit pic d'insuline pour pouvoir être bien absorbée dans les muscles. Et il vaut mieux avoir un apport régulier comme ça plutôt qu'un apport avec des mégadoses au moment de ton entraînement dans un booster, par exemple. C'est beaucoup moins efficace que si tu la prends régulièrement. Donc, t'as ça.
La demi-vie est très courte aussi. Hein. Il faut renouveler souvent. C'est pour ça, c'est parce qu'il faut renouveler souvent l'apport.
Quoi. Ouais, on a une meilleure saturation musculaire, effectivement, quand on la prend comme ça quotidiennement. Mais c'est une saturation qui prend plusieurs semaines, en fait, à se produire. Donc, c'est pour ça que c'est un complément alimentaire qu'il faut vraiment prendre plutôt au long cours.
Long terme,
ce qui est sûr, c'est que quand tu vas arrêter la créatine, dans tous les cas, tu vas perdre un peu de force et un peu de volume musculaire. Parce que comme la créatine, elle aide à retenir de l'eau. Et à la contraction musculaire, ben, c'est normal que tu perdes un petit peu. Mais c'est pour ça que c'est intéressant de la prendre pendant quand même plusieurs mois. Parce que ce que tu as gagné, par contre, comme muscle, le muscle physique, tu vois, ben, tu vas le garder. Lui, ça va pas disparaître. Donc, tu vas perdre un tout petit peu, mais quand même, tu auras globalement progressé dans l'affaire.
Sur quelqu'un qui s'entraîne...
Tu peux prendre toute l'année. Hein.
Ouais, mais quelqu'un qui s'entraîne depuis 10, 20 ans, tu vois, qui a quand même qui a une expérience de l'entraînement, de la musculation, est-ce qu'il va ressentir autant d'effets que le débutant, plus d'effets?
Plus d'effets. En fait,
plus
on a
d'effets.
Des études là-dessus. Ouais. Plus tu as de l'expérience en muscu, plus tu vas tirer des bienfaits de la créatine parce que c'est surtout les fibres 2, les fibres justement qui sont développées pour faire des efforts explosifs, qui provoquent la réponse à la créatine. Et en fait, plus tu t'entraînes, plus tu stimules ces fibres-là. Et donc, du coup, quand tu prends de la créatine, tu sens plus de bienfaits. Donc, le débutant, par exemple, il voit pas grand-chose en prenant de la créatine. Voir ça sert à rien pour lui.
Tu vois, c'est intéressant ça. Plus c'est plus fait pour l'avancer que le débutant. C'est peut-être aussi ça qui a participé à l'effet gonflette de la musculation. Peut-être la créatine, le fait de grossir et puis t'arrêtes. Non,
tu prends pas 10 kilos non plus avec la créatine. Hein.
Non, mais tu sais, si en 2-3 semaines par exemple t'as un peu gonflé et que ensuite quand t'arrêtes la créatine, tu perds tout, ça a peut-être donné lieu à cette réputation de la musculation c'est de la gonflette.
Je pense pas, moi je pense que l'histoire de la créatine c'est que pendant longtemps les sportifs qui se faisaient attraper à un test antidopage, ils disaient pas qu'ils avaient pris des produits dopants. Il disait « Ah, c'est à cause de la créatine, c'est pour ça que j'ai été pris la main dans le sac pour pas parler des vrais produits qu'ils ont pris et qui sont autrement plus violents et illégaux que la créatine en fait. La créatine n'a jamais été interdite, c'est une substance naturelle qui est pas dangereuse, etc. » Et donc, pour moi, c'est un petit peu de ça. Donc, dans l'esprit des gens, pour beaucoup de gens, la créatine, c'est un produit dopant. « Ah, tu prends de la créatine, mon Dieu !» Alors, un peu moins maintenant, parce que tu en as tellement partout en complément alimentaire de la créatine que... Forcément, mais...
Ouais, mais on dit toujours que tu vois, tout ce qui est en excès finit par être délétère pour l'organisme. Est-ce que le fait d'être en cure toute l'année de créatine, c'est pas dangereux, c'est pas mettre un moteur de Ferrari sur une deux chevaux?
Bah non, parce que la créatine, elle va pas c'est pas comme un anabolisant. Elle va pas permettre à tes muscles de faire un effort pour lequel ils sont pas conçus en fait. Ça modifie pas structurellement, je sais pas moi, quelque chose comme peuvent faire certains produits, non. Et puis la créatine, faut pas oublier que t'en as naturellement dans les aliments, t'en as naturellement dans la viande, dans le poisson, en petite quantité. Donc je pourrais te retourner la question en disant, est-ce que manger de la viande et du poisson régulièrement, c'est pas se donner des capacités supérieures qu'on devrait pas avoir, tu vois. Non, là, on n'est pas dans ce cadre-là.
Ok. T'as parlé de muscu à jeun. Est-ce que fausse bonne idée pour perdre du gras, pour être performant? Il y a encore les deux discours aussi. Hein. Il faut manger pour être bien et il faut pas manger pour puiser dans les bonnes ressources.
Bah, c'est pas les mêmes stratégies. En fait, tout est possible. Faut trouver un peu ce qui te convient, si tu veux, mais c'est pas très important, en fait. Le principe de perdre du poids ou de perdre du gras, c'est de créer un déficit calorique. En fait, peu importe si tu fais ton sport à jeun ou alors si tu fais un déficit calorique sur la journée, en fait, ça revient au même. Je vais essayer de m'expliquer. En gros, tu manges pas le matin et tu vas faire un entraînement de muscu. Forcément, comme tu es à jeun, tu vas brûler plus de graisse. Donc, on va prendre un chiffre théorique, on va dire que pendant ta séance de sport, tu vas brûler 20 grammes de graisse. Ok. Après ton sport, tu vas manger. Enfin, à un moment donné, il faut quand même manger, tu vois.
tu vas les reprendre, quoi.
Bah, en fait, comme tu as brûlé beaucoup dans tes réserves, ton corps, il est un peu avide. Donc, ce qui va se passer, c'est que sur tes 20 grammes de graisse que tu brûles, à travers l'alimentation, soit en convertissant du sucre en graisse, soit en prenant directement du gras dans les aliments, le corps va remplacer une partie de cette graisse qui a été perdue. Donc, tu as perdu 20 grammes. Supposons que le corps va remettre 5 grammes. Donc au final, en fait, tu auras perdu 15 grammes sur la journée de graisse. L'autre stratégie, qui consiste à ne pas s'entraîner à jeun, mais à prendre par exemple un repas, un petit déjeuner. Et en fait, si tu veux perdre du poids, ce que tu peux faire, par exemple, c'est que globalement sur ta journée, tu manges un tout petit peu moins à chaque repas. Du coup, ton petit déjeuner, il est un peu plus petit, ton déjeuner est un peu plus petit, ton goûter aussi et ton dîner aussi, en gros. Donc là, ce qui se passe, c'est que comme tu es un tout petit peu en déficit calorique, le matin, comme en plus tu vas aller faire ton entraînement, tu vas perdre 5 grammes de gras. Et puis ensuite, au cours de la journée, tu vas perdre encore quelques grammes, etc. Et à la fin, tu vas arriver à 15 grammes de perdu. La même chose.
Ça revient au même.
Tu vois ce que je veux dire? La différence, c'est le déficit énergétique. C'est pas la façon dont tu agences le déficit énergétique, en fait. Ça change rien. Tu l'agences en le mettant plutôt le matin, plutôt le soir, courir à jeun, manger moins le midi, faire un jeûne intermittent et tout ça. Ça n'a pas trop d'importance en réalité.
Mais si tu si t'habitues ton corps, j'ai entendu ça sur quelqu'un qui faisait du sport de l'endurance, tu vois. Si tu apprends ton corps à mobiliser les graisses, est-ce qu'il n'y a pas au long terme plus d'avantages, tu vois, par exemple sur le cas numéro 1 que sur le cas numéro 2, le fait d'apprendre à ton corps à utiliser les graisses, alors peut-être les re-remplir, mais que tu auras une meilleure capacité de les utiliser, donc de faire moins de gras, tu vois, à terme.
Non, pas forcément, parce que c'est dans aucune des deux situations qu'on a notées, là, on est en train vraiment de stimuler la capacité maximale à utiliser les graisses. Si tu veux vraiment stimuler la capacité maximale à utiliser tes graisses, il va falloir plutôt t'orienter vers un régime cétogène. Et en fait, l'adaptation, elle est temporaire. Elle a lieu pendant que tu manges cette alimentation-là. C'est comme si tu veux stimuler, par exemple, le stockage du glycogène pour améliorer l'utilisation des sucres dans ton corps. Tu peux faire ce qu'on appelle un rebond glycogénique où tu vas forcer ton organisme à stocker un peu plus de glycogène avant un entraînement de longue durée, par exemple. Et c'est que ponctuel. Tu peux pas faire ça, en fait. Ton corps peut pas s'adapter pour stocker toujours plus de glycogène que ce dont tu as besoin. Et ton corps peut pas non plus s'adapter pour brûler toujours plus de graisse que ce qu'il pourrait normalement faire, en fait. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais.
Donc, t'as plein de méthodes qui sont possibles, mais t'as pas de truc miracle. Après, ce qui est vrai, c'est que en fonction des gens, t'as des choses où ça marche mieux parce qu'ils sont plus à l'aise avec ça. Ils ont plus de facilité à le mettre en œuvre. T'as des gens pour qui c'est beaucoup plus facile de faire le jeûne intermittent et d'arrêter de manger à partir de 16 heures que de manger léger tout au long de la journée, tu vois. Donc là, ils vont obtenir plus de résultats. mais c'est vraiment strictement personnel. C'est pas lié à un effet miracle. Voilà. Par contre, ce qui est vrai, c'est que... Non, il n'y a pas de méthode miracle. Par contre, ce qui est vrai, c'est que le fait de changer de routine peut stimuler effectivement la perte de poids, mais en fait, ça marche dans tous les sens. Par exemple, tu as des études sur le petit déjeuner. C'est qui avait été faite à une époque, c'était qu'est-ce qui se passe si je prenais pas de petit déjeuner et d'un seul coup, je me mets à en prendre et vice-versa, si j'en prenais, mais j'arrête d'en prendre. Ben, en fait, dans tous les cas, le fait de changer de routine, ça peut stimuler la perte de poids temporairement. Mais il n'y a pas une supériorité d'un truc sur l'autre, en fait. Ça n'a pas d'importance que tu prennes un petit déjeuner ou que tu prennes pas de petit déjeuner. Mais le fait de faire quelque chose d'inhabituel pour ton corps, temporairement, peut le mettre dans une situation, voilà, exactement, ouais, où il va brûler effectivement un petit peu plus de graisse, un petit peu plus de sucre, etc. Mais c'est toujours temporaire, en fait.
Ok, bon, rien ne passera au-dessus du déficit calorique, peu importe le sens, la manière, la méthode, bah, le régime.
Si, c'est intéressant de trouver sa méthode qui te convient, mais il ne faut pas l'avoir comme
dans
un
l'absolu,
dogme,
quoi.
En fait. Voilà, dans l'absolu, il ne faut pas percevoir ça comme étant... Il n'y a pas une méthode extraordinaire qui surpasse toutes les autres.
Ok. Bah oui, mais c'est dommage, on cherche tous
oui,
ça, il n'y a pas.
C'est dommage. C'est comme les protéines, on veut celles qui surpassent toutes les autres.
Ben alors justement, en revenant sur les compléments, les protéines, les BCA, la créatine, très bien. Qu'est-ce qui est le plus utile pour prendre du muscle alors ?
Alors, je dirais, ça dépend un peu des gens, mais bon, il y a un truc que je trouve quand même bien utile, c'est de prendre des glucides pendant l'entraînement, ou alors d'avoir mangé pas trop lointain avant d'aller t'entraîner. Ça joue un rôle anticatabolique qui est assez important. Pourquoi ? Parce que, en fait, la création de masse musculaire, c'est pas uniquement grâce aux protéines. Il faut aussi des glucides. Parce qu'il faut que, pour que la synthèse protéique elle se fasse bien, il faut que les réserves énergétiques du muscle elles soient hautes. C'est pour ça que, en général, il faut au moins 48 heures pour bien récupérer après un effort de muscu. Parce que, si tu veux, l'exemple tout bête, c'est notre corps, il a été conçu pour la survie. En tout cas, la survie de notre propre espèce. Jusqu'à présent, si on est là, c'est que on a réussi à survivre. Et donc, avant d'être dans le confort moderne, on était soumis à des conditions un peu plus difficiles. Et donc, le but, c'était pas forcément de prendre le plus de masse musculaire possible dans un premier temps, mais c'était de pouvoir échapper à un danger, de pouvoir être réactif, tu vois. Donc, nos muscles, quand on mange, ils vont d'abord se préoccuper de remplir les réserves avant d'aller faire une synthèse protéique pour combler ce qui a été éventuellement perdu. Donc, c'est intéressant que tes réserves de sucre dans tes muscles soient pas trop basses après ton entraînement. Parce que tu vas récupérer plus rapidement et tu vas construire du muscle plus rapidement. Donc, tu as plusieurs moyens d'arriver à ça. Tu as de manger assez proche de ton entraînement. Faut pas que tu vomisses, mais bon, d'avoir mangé...
La fameuse fenêtre anabolique.
La fameuse fenêtre anabolique, exactement. Tu peux aussi prendre des glucides pendant l'entraînement. Ben, en fait, elle est décriée principalement à cause du post-training, c'est-à-dire après l'entraînement. Parce que moi, je viens de parler de avant l'entraînement, je viens de parler de pendant l'entraînement, mais à une époque, la mode, c'était de dire uniquement, c'est après l'entraînement, vite, il faut manger du sucre, enfin, genre de la maltodextrine ou du glucose, d'en prendre plein, justement, pour que ça arrive très vite dans les muscles qui sont avides de sucre à ce moment-là, pour pouvoir remonter vite les niveaux de glucides et ensuite pouvoir induire la synthèse protéique rapidement. Et en fait, ça marche pas très bien. Parce que la vitesse à laquelle le muscle peut se remplir de glycogène, c'est quand même limité. Tu peux prendre plein de sucre, ça va stimuler la prise de glycogène dans le muscle, mais ça va aussi faire du gras, en fait. Parce que ton corps peut pas traiter tout ce sucre. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir aussi des apports avant l'entraînement et pendant l'entraînement. Parce que c'est plus intéressant de limiter quand même la déplétion que d'essayer d'arriver super bas pour ensuite remonter super haut. C'est beaucoup plus compliqué pour le corps. Voilà.
D'accord. Donc, on est pas, si on prend un peu de sucre pendant l'entraînement avec des BCA, par exemple, on fait déjà quelque chose de pas mal pour éviter, pour être bien en termes d'apport. Et si
ouais,
après
alors,
on mange.
Quand on dit sucre, c'est pas du sucre au sens sucre de table, hein. Attention, hein. Parce que ça, c'est pas adapté, hein. Non, mais pour ceux qui ne connaissent
fructose,
pas forcément. Parce que le sucre de table, c'est du saccharose, donc c'est 50%
saccharose,
fructose, 50% ouais. Glucose. Et effectivement, c'est pas très adapté parce que le fructose, il est pas utilisé par les muscles. Donc, il va aller plutôt dans le foie. Et la muscu étant pas un sport qui vide complètement le foie, tu vas surtout faire du gras en fait, donc c'est pas très adapté. Prendre d'autres types de glucides.
Ouais, maltodextrine comme t'as dit, je sais plus, il y en avait un qui s'appelait comment à l'époque, le
Vitargo.
Vitargo, c'est ça.
C'est ça?
Ouais, c'est ça que je pensais.
Il y en a d'autres maintenant, t'as les dextrines, t'as les trucs comme ça, donc t'as plein de choix possibles, on va dire.
Ok, et en termes de compléments, alors, entre, je sais pas, on nous vend du magnésium, on nous vend du zinc, on nous vend, alors, l'ashwagandha aussi, à ne pas confondre avec l'ayahuasca, qui donne pas exactement les mêmes symptômes. Qu'est-ce qui est utile là-dedans pour un sportif? Tu vois, là, on parle quand même pas mal de prise de muscle, mais il y a aussi, sur le sportif général, tu vois, sur la récup, sur performance.
Ouais.
Qu'est-ce que tu recommanderais?
Bah, franchement, il y a des trucs, c'est compliqué, parce que l'ashwagandha, par exemple, la plupart des études, elles sont payées par les fabricants. Moi, j'ai testé l'ashwagandha, j'ai rien vu de spécial, quoi. Alors, je suis peut-être pas un répondeur, mais...
C'est censé être bon pour la récup, hein. C'est pour détendre, la relaxation,
ouais,
c'est ça?
Pour la Non, un peu pour tout, en fait. C'est un adaptogène, mais c'est censé aussi améliorer la force, réduire les courbatures, c'est censé améliorer la production de testostérone. Bon, je ne me suis pas senti
pas
plus viril.
Bon, ça, c'est un autre sujet. Bah, en parlant de virilité, voilà. les boosters de testo, ou comment on appelle ça, les...
c'est des arnaques, ça.
Ouais. Comment on appelle ça
tribulus
déjà? Ouais, voilà, Tribulus, c'est ça. Et ça revient en force. Ouais,
ouais.
Moi, j'ai entendu que ça revenait en force, au Tribulus.
Ouais. Bah, écoutez, je vous conseille pas de mettre votre argent là-dedans. C'est tout ce que je peux vous dire. Non, pour moi, ça sert à rien. Non, dans les trucs qui marchent, il y a la créatine. La créatine, c'est bien.
Ouais, bah non, ça, c'est... on a bien compris, ouais.
Ouais, la bêta-alanine, c'est bien aussi. Ça permet d'augmenter l'endurance.
Oui, non, justement, excuse-moi, mais parce que c'est dans les catégories des boosters qu'on trouve beaucoup de bêta-alanine. Est-ce que, pour rester 30 secondes sur la créatine, est-ce qu'il faudrait intégrer de la créatine dans les boosters? Parce qu'on a souvent entendu que c'était hypoglycémiant. Et donc moi, depuis ce jour-là, depuis qu'on m'a dit ça, ou depuis que j'ai lu ça, que c'était hypoglycémiant, à chaque fois que je vois un booster où il y a de la créatine dedans, je me dis, c'est une arnaque. Ou en tout cas, je me dis, c'est pas très net, cette histoire.
Bah, en fait, le problème, c'est surtout que... tu peux pas avoir vraiment les effets de la bêta-alanine si tu la prends pas en plusieurs fois en fait. La problématique c'est de la prendre dans un booster justement. T'as pas c'est un peu comme la créatine, la bêta-alanine en fait. Les effets ils deviennent vraiment manifestes quand tu la prends de façon prolongée et idéalement que tu divises des doses dans la journée. Donc booster riche en bêta-alanine, je vois vraiment si ça fait grand-chose.
Si, ça picote. On a l'impression que ça...
Ouais, ça picote, mais est-ce que tu fais plus des séries, t'arrives à faire des séries plus longues?
Ça, j'en sais rien. J'en ai très peu pris, moi. Donc, Mais je me souviens quand même que quand ça picotait dans les mains, dans les pieds et un peu dans la tête, j'avais l'impression que j'allais me transformer en Hulk. Ça n'est jamais arrivé. mais bon.
Ça, c'est lié au fait que la dose est un peu forte. C'est un effet normal de la bêta-alanine, mais qui n'est pas dangereux. C'est les mastocytes des granules, je crois. Mais bon, c'est pas méchant. On peut éviter le problème en prenant la bêta-alanine en petite dose répartie sur la journée. Donc il y a une meilleure absorption et on n'a pas d'effet secondaire. Et c'est plus intéressant.
Et ça, c'est mieux que de le prendre une fois avant l'entraînement.
Ouais. Et tu verras que ça repousse la sensation de brûlure dans le muscle si tu le prends correctement. Et du coup, tu peux faire des séries plus longues. Donc si tu fais des séries plus longues, tu peux faire un tonnage, c'est-à-dire un poids total soulevé pendant ta séance qui est plus important. Donc, tu soumets tes muscles à une contrainte mécanique plus élevée et donc, tu stimules ta prise de masse musculaire.
Ok. Pas mal pour les jambes, ça, parce que souvent, ce qui brûle le plus lorsque tu t'entraînes, c'est les jambes. Enfin, en tout cas,
pour moi, c'est...
Pour peut-être que je généralise. Ouais. Ok. Et alors, donc, la créatine dans les boosters, c'est ça, c'est que comme c'est hypoglycémiant, est-ce que c'est intéressant?
Non, mais
ou pas
en fait, les boosters, c'est des trucs de. C'est stupide. Parce que tout. Mais c'est vrai.
C'était ce que je voulais entendre.
Il y a juste un truc qui peut être bien dans un booster, c'est genre la caféine, par exemple. Si c'est comme prendre un ou deux cafés, parfois trois. Ça booste. La caféine, on a des études qui montrent que ça booste la force. C'est efficace, hein, pour être plus éveillé, plus fort, etc. Et donc, la caféine, très bien. Un booster qui contient de la caféine, ça va être efficace pour te réveiller. Mais les autres ingrédients, c'est du marketing. Tu mets de la créatine, tu mets de la bêta-alanine, tu mets de la glutamine, tu mets je sais pas quoi dedans. ça peut pas faire effet en fait en une seule fois. C'est impossible. Il faudrait prendre le booster tous les jours. Et la problématique, c'est que si tu prends le booster tous les jours, en fait, ça veut dire que tu prends pas correctement les ingrédients. Parce que ta créatine, pour qu'elle soit aux effets optimum, il faut répartir la dose. La bêta-alanine, c'est pareil. Et la plupart des ingrédients, en fait, c'est pareil.
Ah ouais, il faudrait tous les prendre séparés. Mais l'arginine, citrulline et arginine, qui sont des composants souvent des boosters, qui favorisent la, donc c'est la vasodilatation. Donc en gros, tu congestionnes plus. Est-ce que ça, c'est utile? C'est pas utile?
J'adore la question.
Ouais, mais j'essaie toujours de poser des questions un peu binaires parce que c'est ce qu'on a envie de savoir alors que tout est nuancé, mais je te laisse t'apporter la nuance.
Alors en fait, c'est potentiellement utile, effectivement, citrulline, arginine, surtout le mélange qui est plus intéressant que de prendre juste de l'arginine par exemple. Faut juste faire gaffe à la dose d'arginine parce que l'arginine, quand on prend trop, ça peut te donner la diarrhée. Donc faut faire gaffe. Mais le mélange, effectivement, va booster la production d'oxyde nitrique. Donc, c'est un gaz qui provoque la vasodilatation. Et on a des études qui montrent que, en fait, le phénomène de vasodilatation, c'est un facteur de la prise de masse musculaire. Mais c'est pas que le seul. C'est-à-dire que si tu congestionnes bien et qu'en même temps, tu as une contrainte mécanique, enfin, il y a différents facteurs, mais bon, je vous simplifie le truc. En gros... si tu soumets tes muscles à une contrainte mécanique et que tu as une bonne congestion, c'est mieux que si tu n'as pas de congestion. Voilà. Alors probablement parce qu'il y a un afflux sanguin qui est meilleur et donc peut-être une oxygénation, un apport de facteurs de croissance supérieurs, etc. Bon, après dans le détail, c'est pas forcément si bien connu que ça hein, de pourquoi, mais ce qui est sûr, c'est que ça semble être utile. C'est vrai que ça peut faire plaisir aussi à l'ego. Tu te regardes dans la glace, tu dis « mon Dieu, ça y est ».
Énorme.
Énorme, on me reconnaît plus.
Ça y est, j'ai réussi, je l'ai fait.
Donc voilà. D'accord. Mais encore une fois, si tu veux, le booster, il a une vocation souvent d'être pris un peu ponctuellement. Puis tu sais, je vois plein de gens, ils prennent un booster, ils font une cure avec un booster pendant une semaine, et après ils en prennent un autre et tout ça. Donc ils n'auront pas le temps de voir les bienfaits. Parce qu'en fait, avec les substances naturelles, c'est long. C'est à cause de ce que je t'ai expliqué tout à l'heure. Même la citrulline et tout ça, là, si t'en prends, c'est bien. Mais si t'en prends pendant 3 semaines, ça sert à rien. Garde ton argent et achète autre chose, en fait. Parce que tu vas pas progresser tant que ça. Hein.
Ça veut dire que les ingrédients des boosters, donc la créatine, l'arginine, la citrulline, qui sont les deux la même chose quasiment. Attends. Et l'alanine, la bêta-alanine, il faudrait les prendre sur du long terme, finalement. Plus de 3 mois.
Bah ouais.
Et que ça sert à rien de les prendre juste avant, en shot, avant d'aller s'entraîner. Autant prendre un espresso. Voilà.
Bah, moi, je pense, en plus, ça risque de te donner de te brasser le bide, en fait.
Donc, les seules fois où j'ai pris des boosters, moi, j'étais pas bien. C'était, là où j'étais pas bien, c'était après la séance. Ça me donnait un effet de. Alors, je sais pas si c'était un booster qui était hyper élevé en caféine, mais après un entraînement, c'est un peu. Ouais, une espèce de crash, ça devait être de la caféine.
Ouais. Ah ouais, c'est possible. Moi, je prends pas ces trucs-là, je suis trop sensible.
Bon, t'as raison. Bon, à quelle heure tu dois partir?
Puis bon, j'ai déjà assez de masse comme ça, ça sert à rien d'aller plus loin.
Voilà, c'est... mais oui, forcément.
Bah, effectivement, je vais pas tarder. Moi, ce que je propose...
Ouais, on a fait mon tour.
On a fait un petit tour. Je peux peut-être en profiter pour dire qu'effectivement, il y a une nouvelle version de Nutrition de la Force qui va sortir sous peu. C'est
Elle
quand même un livre... qui a plus de 10 ans, ouais. Mais qui est
super
numéro 1 des ventes depuis 10 ans, hein, je précise. Donc là, il va y avoir une version mise à jour avec toutes les dernières nouveautés sur les compléments alimentaires, les dosages, etc., des petites choses sur la nutrition en plus.
Ça, voilà. C'était l'ancienne version.
Exactement.
Ici, préface de Michael Gundil en plus, super bouquin qui a formé... un nombre incalculable de coachs, de personnes qui aujourd'hui s'expriment. Hein. On dit toujours qu'il faut rendre un peu à César ce qui appartient à César, mais ce bouquin, Nutrition de la Force, moi je l'ai lu il y a une dizaine d'années, c'est vrai qu'il y avait déjà quasiment tout dedans, tu vois. Et puis même l'assiette de la force aussi était vraiment bien, et bon, sans parler de paléo nutrition aussi. Mais là donc, t'as la nouvelle version qui vient, qu'est-ce qu'on va retrouver en plus pour ceux qui ont lu la première par exemple?
Bah, c'est ce que je viens de te dire, des actualisations avec toutes les données de la recherche. Alors... Beaucoup de choses nouvelles dans les compléments alimentaires, justement, dont on a parlé aujourd'hui. Et sur la partie nutrition, actualisation, précision, nouvelles données sur bah, des choses dont je parlais pas forcément dans la première édition, parce qu'en 10 ans, bah, forcément, il y a eu pas mal d'évolutions. C'est mon éditeur qui m'a sollicité pour faire la mise à jour, ce qui m'a dit, bah ouais, mais c'est pas ça, c'est que je manque un peu de temps, et puis c'est toujours difficile, en fait, de reprendre quelque chose qui était vraiment bien. Et sans prétention, le livre à la base était quand même pas mal. Il y a des choses, comme je dis, qui pouvaient être améliorées dans la nouvelle version, si tu veux. Mais c'est pas évident. Faut être à la hauteur finalement. Et donc,
ouais, bien sûr.
Ça se fait finalement.
Mais tu es occupé. Tu me dis, tu es très occupé. À quoi ressemblent tes journées? C'est les compléments. T'es sur une AE. Tu écris des articles. Tu participes à des conférences. Hein, mais en même temps, non. T'as des podcasts. Tu fais des podcasts tous les jours.
Je fais des podcasts avec Giro, avec Limitless. Alors mes journées.
On passe au beau jour à David.
Ouais, salut David. En fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai plusieurs entreprises à gérer, donc pas mal de monde qui travaille avec moi sur différents projets. Là, je suis en train de travailler sur, vous allez voir apparaître un nouveau site, julienvenesson.fr bientôt, avec pas mal de nouveaux trucs dessus. En gros, c'est ça, si tu veux, pour sans rentrer dans le détail de la vie privée, beaucoup de trucs de boulot qui prennent pas mal de temps. Okay.
Des travaux. Pourquoi t'as décidé de sponsoriser uniquement Jean-Ange? C'est une question que je l'avais posée quand je l'avais reçu là pour le dernier podcast que j'ai fait avec lui.
J'ai pas décidé de sponsoriser uniquement Jean-Ange. C'est juste qu'on fait pas de... Moi, je fais pas de démarchage, en fait. Ça m'intéresse pas le concept donne-moi un code... En fait, je supporte pas le truc des influenceurs modernes, qui est des gens qui n'ont aucune passion, à part celle de gagner de l'argent, et qui, un jour, vont faire un code promo pour machin, le lendemain, vont faire un code promo pour truc. Moi, ça m'intéresse pas, en fait. Moi, je veux travailler avec des gens qui sont, comme je te disais au début, des gens qui ont des valeurs, des gens qui croient à ce qu'ils font, qui sont investis parce que ça leur plaît. Je veux des gens passionnés, en fait. Parce que c'est ça qui fait des collaborations intéressantes. Et Jean-Ronge est typiquement quelqu'un de passionné. En plus, il a aussi le mérite de quelqu'un de très honnête. C'est quelqu'un que je soutiens, que j'apprécie. Mais après, c'est plus l'occasion qui s'est faite comme ça. Je démarche personne, si tu veux. Maintenant, quelqu'un me démarche et que il est dans les mêmes valeurs que nous et que il veut... incarner vraiment quelque chose, tu vois, c'est nous on est pour quoi, mais la mode des le truc des influenceurs, en plus je sais pas, même moi en tant que quand je regarde les réseaux sociaux, je comprends même pas en fait quand je vois un influenceur un jour il a le code promo pour machin et le lendemain c'est autre chose. Je trouve pas ça incarné, je comprends pas vraiment pourquoi est-ce que tu vois ce que je veux dire, ça me donne pas envie d'acheter quoi.
Je comprends. Bon, en tout cas, le message est passé. Peut-être que tu auras des candidatures, des gens qui vont venir vers
puis
toi.
Je pense que de toute façon,
tu as envie d'incarner une AE.
T'as plein de marques qui basent tout leur business là-dessus. Donc, ils ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Moi, je suis pas.
Ok. Parfait. Tu me disais, je te propose, et puis c'est vrai que j'étais un peu coupé parce que on a parlé du bouquin. On a fait un peu le tour. Tu proposais quoi? De se refaire une saillie.
Peut-être qu'on peut refaire un coup une fois que le bouquin sera sorti.
Quel jour exactement? Ça se trouve, il sera sorti.
Quel jour
il sort?
Non, j'ai pas la date exactement. Au mois de mars, je crois. Au mois de mars.
Écoute, il sera sorti probablement parce que j'ai pas mal d'avance sur ces épisodes. Écoute, pourquoi pas, hein, si on a un sujet, on a un truc un spécifique, je vais y mettre un bon titre sur le podcast d'aujourd'hui, sur l'épisode d'aujourd'hui. J'ai une idée, je commence à savoir ce qui plaît les gens en termes d'accroche.
Voilà, alors,
je vais finir par devenir un journaliste. Je le dis pas maintenant parce qu'on verra, j'ai pas encore coupé. Je vais te le dire après, je vais couper l'enregistrement.
J'ai peur, Julien Venesson nu, cliquez ici.
des millions de vues, des millions
zéro
de vues.
Zéro mais Julien à poil dans la salle de bain, cliquez.
Ouais, ça, écoute, je sais pas si ça intéresserait les gens, pourquoi pas. Bon, en tout cas, Julien, merci pour ta participation, d'avoir répondu aux questions. On a fait le tour, on a compris un peu ce qui était utile, moins utile. On te retrouve sur ton site web. La nutrition de la force qui va sortir, enfin la nouvelle édition qui sortira bientôt et qui sera probablement sortie lorsque cet épisode sortira. Donc, ruez-vous sur le livre si vous ne l'avez pas encore lu parce que vous allez apprendre énormément de choses. Et sur les réseaux, Instagram, tout ça, on aura l'occasion de reparler peut-être de conflits d'intérêts dans le milieu un petit peu plus tard aussi, quand tu auras des noms à nous sortir.
Ça marche.
Parfait. Merci à tous. Restez avec moi 30 secondes. Abonnez-vous au podcast si ce n'est pas encore fait. Si vous avez appris des trucs, partagez cet épisode à tous ceux qui sont sportifs autour de vous et qui pourraient tirer bénéfice des enseignements de Julien et de tout ce dont on a parlé aujourd'hui. Laissez une note sur Apple Podcasts, sur Spotify. Je le rappelle, mais c'est important. Si vous voulez me faire plaisir, si vous voulez faire plaisir à mon invité aussi, laissez des notes sur le podcast. Comme ça, on grossit. Le podcast ne fait que grossir en termes de chiffres. C'est génial. C'est grâce à vous. C'est grâce à mes invités. Et voilà, plus il y a des gens qui partagent, notamment en story sur Instagram, comme ça on relaie, et puis tout le monde relaie, et puis ça fait partager ça fait un effet boule de neige comme ça, c'est absolument génial. Tout le monde sera content, il y aura de super invités. J'ai des invités que vous soupçonnez probablement pas dans les prochaines semaines. Je croise les doigts et ça va être vraiment génial. D'ici là, abonnez-vous pour pas les louper. À la semaine prochaine, portez-vous bien, faites pas trop les cons et attention aux boosters. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Biomécanique jusqu'au bout. Vous pouvez l'envoyer à deux de vos amis ou le partager sur vos réseaux sociaux. Merci également de lui mettre une note de 5 étoiles avec un petit commentaire sympa. C'est ce qui me permet de mieux ressortir dans les classements. Laissez-moi votre email sur biomecaniquepodcast.com/lettre et je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que la lettre biomécanique une fois par mois où je vous partage mes meilleurs conseils et recommandations. Vous avez écouté le podcast Biomécanique. Je suis Jérôme Cazerolle et je vous dis à très bientôt.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.